plein de soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaite un merveilleux été. L'Hôtel des Pins a 100 ans cette année et vous propose une carte et des menus à la mesure de ses très grands bonheurs.
Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue dans la Very Good Mobile. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons quitté notre refuge de l'Hôtel des Pins, qui reste néanmoins centenaire et notre partenaire pour tout l'été, pour nous retrouver dans la célèbre camionnette rouge ici sur le boulevard de la plage, garée devant la maison de l'herpès, comme disait mon dermatologue.
Bravo.
Alors, bien sûr, la thématique de l'émission varie quotidiennement. Nous enregistrons le retour de Loli. Comment vas-tu, Loli, journaliste ?
Mais ça va et toi ?
Je vais très bien. Je suis toujours ravi d'avoir un petit rayon de soleil dans cette camionnette. Et puis l'ami brutal, toujours fidèle au poste.
Bah, j'ai retrouvé mon coffre quoi à l'arrière du camion. Je suis bien là moi.
Bah oui, t'es pas
comme
mal
d'hab.
Du tout, t'es beau. Et en tout cas, avec ton treillis militaire, tu repousses l'impétron qui voudrait débrancher des villes.
Faut être prêt à la guerre, on sait jamais, des fois qu'il y a des Espagnols qui débarquent, je leur pète la tête.
Alors figure-toi que nous avons des invités à propos d'Espagnols qui justement sont un petit peu déchus comme nous le sommes tous après ce résultat lamentable concernant l'équipe de France de football, mais nous en reparlerons. Donc je commence par vous présenter mon ami d'enfance quasiment, Bernard Martin, à la fois chef d'entreprise, je dirais important de la presqu'île, mais aussi président de l'équipe de football de l'Esch-Cap-Ferret. Bonjour Bernard Martin et bienvenue.
Bonjour Hervé, bonjour à tous.
Donc tu es venu avec ton bras droit, si j'ose dire, avec un ami de longue date également, un homme qui est protéiforme, il est à la tête de conciergerie, enfin d'une conciergerie en tout cas, et il est aussi le directeur technique du fameux club de foot dont on vient de parler, c'est Jonathan Pascuo. Comment ça va ?
Ça va Hervé.
Vous l'avez vu, il a une voix de radio en plus. Heureusement, il est moche, c'est déjà ça. Bon. Quoi qu'il en soit, les amis, nous allons pouvoir vous donner un petit peu le programme du jour. À quoi allons-nous vous manger ? Nous allons vous manger avec Simone Gélin qui est en face là-bas et qui signe Alma Mater, son dernier roman. Simone est une autrice, vous le savez, à grand succès, qui cumule les prix littéraires et également les pépettes. Et puis, nous avons aussi donc, beaucoup de thématiques, la conciergerie, parce que c'est un sujet moi, qui me passionne quelque part. Il y a 15 ans, 20 ans, on se rappelle que les premiers concierges ont dit « Salut, je vais monter ce business-là » et le Cap Ferret, entre autres, les regardait en disant « Vous êtes fous, c'est pas du tout Cap Ferret, restez à Saint-Tropez, bande de cons. » Et puis en fait, pas du tout. Aujourd'hui, c'est devenu un élément de la danse économique absolument vital et je vois pas comment les gens pourraient s'en passer. Et puis Bernard Martin, évidemment, et Jonathan vont nous parler à la fois de la saison passée et à venir du club de l'Esch Cap Ferret parce que National 3, depuis maintenant 14 ans, c'est pas rien. Et puis, également, Bernard Martin, je le disais, il a une entreprise également de construction et donc on va prendre un petit peu voilà, la température. Que devient le Cap Ferret ? Est-ce qu'effectivement, entre les conciergeries, les peut-être nouveaux chantiers ou pas, est-ce que justement, quand le bâtiment va, tout va ? Donc, est-ce que tout va ? On va essayer de répondre à tout ça. Voilà pour l'introduction de cette émission. Je vous propose tout de suite de nous retrouver d'abord pour une toute petite page de nouvelles, d'agenda, de qu'est-ce qui s'est passé.
Vent de soleil sur Very Good Cap Ferret, indice 50 de protection d'ennui.
Très bien, merci beaucoup. On va aller rapidement. Les amis, hier soir, vous avez remarqué comme moi que toutes les boutiques, toutes les crêpières, tous les amis étaient aux couleurs tricolores dans l'espoir de ce match. Le village, le bassin, la France vivaient à l'aune de ce France-Espagne. Et donc, finalement, ça a fait un petit peu retomber soufflé, Bernard.
Ça a été la grosse désillusion. Par contre, sur le contenu du match, le résultat du match, même si on peut évoquer quelques largesses de l'arbitrage, notamment au niveau du pénalty et puis deux, trois sanctions sur l'équipe de France. Bon, il n'y a pas vraiment de contestation possible quant au résultat final.
John, pareil, tu as senti le pouls du village un petit peu lent ?
En effet, après le premier but encaissé sur pénalty et on va dire l'erreur, parce qu'on en a évoqué un petit peu le sujet off. Il est vrai que ça a refroidi un petit peu tout le monde
et
rapidement ça nous a mis dans le dur. Donc à partir du moment où tu es mené 1-0 rapidement face à l'Espagne, c'est très compliqué parce que je pense qu'on a tous sous-estimé cette équipe d'Espagne qui reste une très très belle équipe et on n'a jamais été en capacité de revenir ne serait-ce que rapidement au score, ce qui a forcément creuser les...
Ça a plombé un peu l'ambiance, on en est d'accord. Voilà, donc ça c'était l'occasion tout à l'heure peut-être de reparler de football avec grand plaisir, puisqu'on va évoquer, je le disais tout à l'heure, le club local de Lesges-Cap-Ferré, National 3 s'il vous plaît, maintenu. Mais je voudrais aussi venir donc sur plutôt l'ambiance, quoi, comment c'était dans le village. Moi j'entendais de ma fenêtre le feu d'artifice, mais je n'avais pas tous les... Ouais, ah, oh, Bernard, tu y étais toi, je crois, ou quand on s'est appelé, j'avais l'impression que tu me disais je vais au feu d'artifice. Il y avait du monde ?
Ah, il y avait énormément de monde, ah. Mais par contre, le résultat du match, bizarrement, n'a pas plombé l'atmosphère ni perturbé l'enthousiasme des sportifs et des plaisanciers.
D'accord. Donc, du coup, ça a été une réussite.
Les endroits où le match était projeté en direct, eh bien, les gens faisaient la fête quand même. C'était plutôt bon enfant et sympathique.
D'accord. Ben, écoute, tant mieux. Après, bon, bah, moi, je ne vous cache pas que j'ai d'autres petits conseils à vous donner. On va aller, par exemple, cet après-midi à la médiathèque de Petit Piquet pour les enfants de 3 à 6 ans suivre Kamishibai, qui est un petit spectacle très bien fichu et qui va permettre peut-être à nos petites têtes blondes de s'amuser tout en restant un peu à l'ombre, parce qu'on va encore prévoir, on le verra en météo tout à l'heure, une journée relativement chaude. Et puis, ce soir, alors là, c'est incontournable, je vais demander à mes invités si, évidemment, ils comptent y aller ou s'ils aiment y aller, c'est le marché gourmand de Piraillan. Alors ça, c'est l'occasion de se réunir. Là aussi, c'est de la convivialité. On mange bien. Jonathan, je te vois sourire.
Je n'y vais absolument pas. Ah, je suis désolé. Voilà, je suis assez franc. J'y vais absolument pas, mais ceci étant... peut-être aller faire un petit tour ce soir.
Il y a tous les commerçants qui se réunissent.
On n'avait pas l'information, forcément. Voilà.
Qui sortent effectivement les traditions culinaires locales. Bernard, toi, tu
aimes nous, ça ? Moi, j'ai l'habitude d'y aller tous les ans. Effectivement, mais ce soir, tu m'apprends, parce que j'avais complètement zappé que c'était ce soir.
Voilà. En plus, le marché de Piraillan est méconnu. Parce que tout le monde parle du marché du Ferret, mais le marché de Piraillan, il est niché là-bas, dans son petit creux, là, dans la tête de l'église de Piraillan. C'est vachement sympa. Il est très sympa, ce marché.
Oui, tout à fait. Et pour la petite histoire, j'ai quelques biens en gestion sur Piraillan, le Canon, et il est vrai que mes locataires apprécient ce petit marché. Je ne vais pas dire qu'ils le préfèrent à celui du Cap-Ferré, mais il est différent et il en faut pour tous les goûts. Mais ils apprécient le marché du Piraillan.
Alors normalement, c'est le moment où on partirait sur le coup de cœur de la presse, mais comme vous l'avez compris, on va un peu chambouler notre emploi du temps. On va attaquer directement la première partie d'entretien avec nos invités. Et donc, je te propose de remercier notre ami d'Hôtel des Pins, qui est le gentil parrain de cette émission, les amis.
Bain de soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
Allez, on part dans le dur tout de suite. Commençons, écoutez, on va rester logique par rapport à l'introduction. Commençons par le football. Parce que ce club de Lesges-Cap-Ferré, qui, je le répète chaque année, mais c'est important de le dire, et ce qui m'a permis de naître à la presqu'île de Lesges-Cap-Ferré. Avant, j'étais un touriste ou un estivant, comme on dit, et puis Bernard Martin me harcela pendant quelques semaines d'été, et je finis par signer dans ce club, et ça m'a ouvert les portes du paradis, je le dis franchement, c'est-à-dire que de personnes qui venaient en vacances, je suis devenu à force un habitant. Voilà. Et donc, le sport est entre autres un merveilleux moyen d'intégration, et aussi un moyen de découverte, puisque c'est grâce à lui que finalement le Cap-Ferré est devenu ma maison. Alors, mon cher Bernard, ce club, tu en as été depuis longtemps le président. Tu l'as connu où au plus bas et où situe-t-il maintenant ?
Alors au plus bas, déjà, il faut avoir la notion des deux entités, puisque il y avait un club au Cap-Ferré, il y avait un club à Lesges.
Oui.
Donc moi, j'étais président initialement du Cap-Ferré et Bernard Castillon, je crois, à l'époque, était président du club de Lesges.
Okay.
Donc on avait évoqué et faire une première tentative de fusion qui malheureusement a avorté.
Tous les présidents qui voulaient faire fusion, ils laissaient leur peau.
Hein. Nous, sur le bol, on était à 48 heures de signer les protocoles. Quand tout d'un moment, il y a eu un retournement de situation de quelques locaux, plus ferrécapiens que les joies, qui se sont opposés. Donc, moi, je n'ai pas voulu passer en force. Donc, j'ai dit, écoutez, on va respecter votre choix. Et on a laissé les choses se faire. Et 3 ans après, ils sont venus me rechercher pour me dire, est-ce que tu ne pourrais pas mettre en place ton projet de fusion.
Alors, c'est amusant parce qu'on a, il y a quelques semaines, fêté les 50 ans du rattachement de la presqu'île, du bout de la pointe du Cap Ferret à la ville de Lège. Puisqu'avant, vous le savez, à partir de la frontière Patachou jusqu'à la pointe, cette partie-là du territoire était rattachée administrativement à la Teste. Donc, est-ce que tu crois, Bernard, que les difficultés, justement, qu'ont eu les deux clubs de Cap Ferret et de Lège à fusionner, c'est parce qu'en fait, au départ, ce n'était pas la même commune. Donc, on était entre guillemets ennemis.
Je ne pense pas que ce soit un problème de même commune, parce qu'aujourd'hui, même si la commune est unifiée, que tu n'as qu'une seule commune, il y a toujours, intérieurement, elle n'est pas concrète, elle n'est pas visible, ouais. Mais il y a toujours cette petite rivalité ou cette petite, ces petites sournoiseries entre les habitants de Lège et du Cap Ferret. Okay. C'est quand même deux cultures totalement opposées, et c'est vrai que c'est... comme mode de vie, c'est très différent.
Très bien. Alors Loli, bien sûr, tu interviens absolument quand tu veux, parce que justement, c'est intéressant aussi le regard extérieur. Si tu as des questions à poser ou envie de mettre ton grain de sel, tu ne te prives pas. Tu te rappelles que je suis trop bavard, moi, sinon. John, tu arrives quand, toi, sur la presqu'île ?
Oula.
Et dans le club, surtout ?
Sur la presqu'île, j'arrive depuis tout petit.
Voilà, donc je sais bien, mais dans le club, pardon, dans l'histoire du club.
Alors, l'histoire du club, il y a à peu près, il y a à peu près une quinzaine d'années. Mmh. Je jouais à Agen, au SUA, et pour, on va dire, pour mémoire, en mémoire à mes parents, grands-parents, et également mes cousins qui avaient tous joué à Lège Cap Ferret, j'avais toujours eu comme souhait de finir ma petite carrière à Lège Cap Ferret, apporter ma pierre à l'édifice. Mmh. Et donc, il y a 15 ans, j'ai eu l'opportunité de revenir sur Lège, jouer en équipe première, porter ses couleurs fièrement. Et puis voilà, on a connu de belles épopées avec Bernard, avec également François Grégoire qui était anciennement président. Bien sûr, je salue avec grand plaisir. Et d'autres, donc Nicolas Sanoun et plein d'amis et plein de joueurs qui sont passés par là. Donc ça fait une quinzaine d'années pour répondre clairement à ta question.
Ne me tapez pas tout de suite, mais je ne connais pas. Quelles sont les couleurs du club ?
Alors elles ont changé. Au départ, elles étaient...
Oh là là ! Tu connais Bernard, pas les couleurs du club.
C'est pour ça que je dis ne me tapez pas.
Ça a été très compliqué parce qu'à l'origine, le Cap Ferret, c'est jaune et vert.
C'est ça. Et Lège, ce qui n'allait pas du tout au blond, j'étais furieux.
Et Lège, c'est bleu et blanc. Alors il a fallu mettre tout le monde d'accord. Et puis on s'est dit, si on fait jaune, vert, bleu, blanc, ça va être compliqué.
Et jaune et bleu, c'est très moche.
Et petit à petit, effectivement, la tendance est partie sur le bleu et blanc. Aujourd'hui, les couleurs de Lège, c'est le bleu et blanc. Non,
mais ceci étant, tu as toujours des rappels de jaune quand même dans le logo, etc. Tu as toujours un peu ces petites...
Oui, dans le logo.
Le Ferret avait le même maillot que Nantes.
Moi, ça ne m'offense pas, mais ceux qui ont beaucoup de gens, ça les a à un moment donné, ça peut... Comme des fois, quand on dit souvent, quand il y a des interviews, quand les gens parlent du club, quand j'ai des journalistes qui me disent le Cap Ferret. Et le Cap Ferret, aussitôt, les gens de Lège me disent « Ouais, mais tu aurais dû reprendre parce que c'est Lège Cap Ferret. » C'est pour ça que je te dis qu'il y a toujours cette petite consonance
et
d'opposition entre les deux.
Exact. Alors attention, parce que le presqu'ilien est susceptible. Il n'a pas l'air comme ça, il est argentin.
Nous sommes très susceptibles.
Très susceptibles. Ok, restons donc sur ce club de Lège Cap Ferret, mais dans un premier temps, nous allons faire une petite page de réclame, comme on disait dans le temps, et on se retrouve tout de suite avec Bernard Martin, Jonathan Pascoe, Loli et Brutal.
Publicité.
On est tellement bien à l'hôtel de la plage, à l'herbe, au bord de l'eau. Pour déjeuner ou pour dîner, pour boire un verre. Des produits frais, simples, une ambiance amicale, familiale, des sourires. L'esprit cabane au service du plaisir et des moments partagés ensemble. L'hôtel de la plage, village de l'herbe, Cap Ferret.
La Maison de la Presse, boulevard de la Plage au Cap Ferret, s'est ouvert toute l'année. Librairies et journaux, éditions, événements et signatures, jeux, tabac, cigares, vin potage, fournitures, cadeaux, consommables. La Maison de la Presse du Cap Ferret offre un service complet 12 mois sur 12. Malheureusement, ils sont aimables, souriants et compétents. On n'a pas de reproches à leur faire, mais on est dessus et on finira par trouver. Maison de la Presse du Cap Ferret, boulevard de la Plage, l'indispensable partenaire du village.
Chez Neneuil, c'est une petite dégustation d'huîtres façon Sébastien de Grave. Elle est posée sur la plage de la République démocratique des Jacquets. On vous y attend avec grand plaisir. Petite dégustation traditionnelle où il fait bon vivre tous les jours, midi et soir, on continue.
Après un gros bain de soleil sur Very Good Cap Ferret, on prend une bonne douche et on va faire ce qu'on veut.
Et oui, de retour dans la Very Good Mobile avec Jonathan Pascoe, avec Jonathan ou Jonathan ?
Jonathan, s'il te plaît.
Jonathan, d'accord. Merci. Des vertes et des pas mûres, je la refais. Et notre ami Bernard Martin, bien entendu, qui est, je dirais, le patron du village, le patron officieux du village. Vous avez le maire taulier. D'un côté, vous avez effectivement l'organigramme municipal qui, bien sûr, est élu et travaille à la bonne marche de la ville. Et puis vous avez Bernard Martin qui, dans l'ombre, distribue les bons et les mauvais points. Et notre ami Lolit, j'aurais avec nous, et Brutal.
Oui, toujours.
Eh oui.
Pourquoi ?
Brutal qui a failli se faire taper en demandant les couleurs du club.
Je savais que j'allais dire un truc qui n'était pas très très...
Eh si, t'as bien raison.
J'ai une question, pourquoi Brutal, s'il vous plaît ?
Ah, bah, ça c'est tonton.
Bah, vas-y, énerve-le.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ça c'est tonton qui peut expliquer.
Vous voulez
de la faute de tonton.
Vous voulez l'histoire ou pas ?
Alors là, tu vois,
Loli, c'est le cas de figure typique où il faut que tu fasses une story. Tu vois, des gens qui s'arrêtent et qui viennent nous regarder. Et ça, il faut qu'on l'inscrive dans nos stories. C'est magnifique. Bonjour mesdames et mademoiselles.
Oui, bonjour, coucou.
Voilà, alors est-ce que nous avons affaire à Émilie ou est-ce que ce sont juste des curieux ?
Nous avons affaire à mon associé Émilie et sa fille, voilà, et ses enfants d'ailleurs, coucou.
Pousse-toi Bernard, regarde, merci, on veut voir la jeune personne.
Donc Émilie et les filles, et voilà. Donc Émilie revient là,
Émilie, voilà, elle
dans l'aventure. Non, pas du tout. Non.
Ah pardon.
On parle pas le politique.
Excusez-moi, j'avais cru comprendre.
Émilie et ses filles, j'ai dit.
Très bien. Bon, alors, de retour, je le disais, dans cette petite aventure radiophonique, on est toujours sur le club de Lège-Cap-Ferret et on a envie donc de savoir, Bernard, oriente-nous sur l'exploit que c'est pour une ville de 8000 habitants d'être en National 3 depuis 14 ans.
Alors, je ne sais pas si c'est franchement un exploit. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que c'est très, très, très compliqué et que c'est quand même beaucoup de tracas, beaucoup de soucis, beaucoup de nuits blanches, surtout sur l'aspect financier pour arriver aujourd'hui à boucler un budget, respecter un fonctionnement en
gérant. C'est quoi le budget moyen d'une équipe de National 3 ?
Le budget du club de Lège. C'est 650 000 euros.
D'accord. Et en moyenne ?
En moyenne, les clubs qui veulent bien figurer n'ont pas de soucis au demeurant, parce que tu peux avoir, avec des gros budgets, être recalé à la DNCG. Okay. Mais le budget moyen pour bien fonctionner en National 2 aujourd'hui, c'est 1 million.
Donc
900 000 millions.
Très bien. Alors juste parce que je suis un profane et que ça me paraît juste incroyable, l'évolution du football, ce n'est pas une critique du tout. Mais aujourd'hui, un joueur donc de 5e division, c'est ça, il est rémunéré, c'est un professionnel.
L'erreur, c'est normal quand on voit le monde professionnel, qu'on se pose la question des joueurs. Ouais. Un joueur de National 3, il n'est pas rémunéré, il a des indemnités,
du moins
chez nous. Pas beaucoup de clubs ont les moyens de rémunérer les joueurs pour jouer au football. Par contre, le coût de fonctionnement d'une saison, c'est tous les à côté. Les joueurs, c'est 30%, 25-30% du budget global. Après, il y a les navettes pour les transferts des joueurs, les déplacements, il y a les frais de maintenance, il y a les 23 éducateurs qui sont sous le régime ACOS, qui ont des bulletins de salaire.
Oui.
C'est tout un fonctionnement qui est très coûteux.
D'accord.
Donc le fonctionnement de l'école de foot, par exemple, une école de foot comme la nôtre, avec 380 ou 400 gamins, nous coûte aujourd'hui 250 000 euros.
Ah oui. Combien de monde dans cette école de foot ?
Les 350,
je crois qu'elle est un modèle.
380 gamins.
Elle est un modèle pour toute la région. Hein.
Et sans compter les goûters, les déjeuners, les déplacements, rien qu'en fonctionnement entre les éducateurs, les équipements. Alors souvent, on fait le raccourci basique en disant c'est les joueurs qui coûtent cher. Mais non, c'est un ensemble qui est très, très onéreux.
D'accord. Alors justement, je voudrais dire un truc aussi, moi, qui me rend très fier, parce que vous savez que j'ai évidemment une objectivité absolue concernant ce club, vu que je le déteste. C'est que, en fait, à l'époque, quand on était ensemble, mon Bernard, on était le petit poussé du bassin. Il y avait des dizaines de clubs supérieurs à nous, que ce soit Andernos, Arcachon, dans la banlieue bordelaise et compagnie. Aujourd'hui, Lège-Cap-Ferret, dans la hiérarchie des clubs girondins, est dans les trois premiers.
Oui, complètement, oui. Et peut-être,
on est la référence. Tous les gens envoient leurs gamins à notre école de foot.
Et peut-être aujourd'hui, fait, j'attends un retour imminent puisque les Girondins sont devant la DNCG.
Alors là, c'est catastrophique. On va faire venir Julien B pour nous en parler.
Et là, ce matin, j'ai eu des personnes responsables du club qui sont très, très, très inquiets et qui ne voient pas d'issue.
Donc, alors, parenthèse, pardon, pour les auditeurs qui vont écouter ce programme, c'est que vous savez que les Girondins sont dans une difficulté financière chronique depuis un moment, ce qui a causé leur rétrogradation aux étages inférieurs. Mais là, il risque d'y avoir encore même pire, c'est-à-dire que même à ce niveau-là, il y avait un projet de fusion avec un groupe appelé Spartan qui finalement est en train d'avorter, comme d'habitude, et le sieur Lopez dit « bon, ben moi j'en ai marre de ne pas mettre d'argent, donc j'en mets pas, mais cette fois-ci officiellement ». Donc au final, le club risque de se retrouver en R1, c'est-à-dire le premier des niveaux. Et donc, ce serait la mort des Girondins de Bordeaux qu'on a connu, et c'est évidemment un drame pour beaucoup de gens. Pardon pour cette parenthèse, mais c'était pour expliquer.
Ce qui serait déjà pour la région catastrophique, parce que bon, les Girondins, c'est quand même notre enfance, c'était la locomotive du football aquitaine. Et le football sans les Girondins sur la région, ça serait quand même un gros handicap.
Comme Very Good sans Brutal.
Déjà, même au niveau des clubs comme les nôtres. Et ça fait que donc, pour situer aujourd'hui dans cette hiérarchie, si les Girondins, je ne le souhaite pas, venaient à être relégués en R1, avec Arcachon, Mérignac, Arlac, Sestas et l'HK Ferré, on serait les cinq clubs aquitains, les leaders au niveau national.
Incroyable. Et moi, je vous rappelle, j'ai connu un club du Cap Ferret, pas de l'Eche Cap Ferret, qui était en 7, 8, 9e niveau national et qui était en Aquitaine le parent pauvre, quand on était tout petit. Dès qu'on avait un match de coupe, on était toujours les outsiders.
Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2026 et vous avez les mêmes acteurs qui sont ici présents. De génération en génération, pareil, c'est Bernard, son papa, je pense aussi à monsieur Patrice Pichet, également, ils ont fait un travail colossal.
Salut Pat,
bonjour Patrice. Ils ont fait un travail colossal et en fait, c'est tout simplement le résultat d'un travail de labeur, de tant d'années, et aujourd'hui, ils récoltent le fruit.
Et un témoin qui s'est transmis.
Complètement, et il faut savoir que ces gens-là, parce que je parle devant Bernard, mais je lui dirai en face.
Il est en face.
Je lui ai toujours dit en face, mais c'est des gens qui sont bénévoles, passionnés, passionnés de l'homme, de l'humain, avant toute chose. Et en fait, ils sont là pour transmettre des valeurs. Ils sont là pour veiller à ce que nos gamins, nos enfants, nos jeunes ici s'éclatent. Et c'est très important en fait.
On a parlé de l'école de foot. Tu viens de dire un autre truc très important, c'est-à-dire que le football, Bernard et Jonathan, c'est le tiers de la population. Parce que si quelque part on considère les joueurs, les parents des joueurs, les bénévoles, les familles, enfin je veux dire que ça on est 8000, il y a peut-être 2500, 3000 personnes.
Nous sommes 500, c'est ça, grosso modo.
Alors en tout, dans le club, la totalité des licenciés, c'est 560.
Voilà.
Donc, quand tu vois sur le nombre, tu rajoutes les familles. C'est vrai qu'effectivement, tu peux multiplier par deux. Donc, ça veut dire que sur une population d'autochtones de 7000 personnes, le club représente 1000 à 1200 personnes.
Alors, monsieur le maire, vous l'avez entendu comme moi, si vous voulez repasser, il faut être gentil avec le football. Quoi qu'il en soit.
C'est central à l'Eche Cap Ferret, le football, tout à fait.
C'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce que c'est un directeur technique? Parce qu'on vient de refondre un petit peu ce club. Et donc, là, moi, j'ai l'impression qu'on est devenu comme des grands clubs européen dont j'entendais parler, avec des présidents, avec des coachs, avec des directeurs techniques. C'est quoi cette refonte du club?
Alors, directeur sportif, Bernard, si tu veux, nous a sollicité en fait il y a quelques mois de cela, et constitué un comité sportif.
Jonathan Pascoe.
Voilà, exactement.
Élie Dohain.
Exactement.
Arnaud Lebrun.
Tout à fait.
Yaroslav Plazil.
Oui.
Qui sont ces
Et
André Penalva.
Voilà. Donc, je pense que Yaroslav Plazil, tout le monde connaît.
International tchèque, joueur des Girondins.
Exactement.
Monégasque.
Brutal et moi, on ne connaît pas, je crois.
Ben, c'est pour ça que je précise. Du coup, tout le monde connaît, mais je dis qui c'est quand même.
Ouais. Arnaud Lebrun, pareil, qui a fait toute sa carrière en Ligue 2. Élie Dohain, pareil, qui a fait toute sa petite carrière en Ligue 2 et qui a fini à jouer avec moi, donc avec nous à l'Eche Cap Ferret. André Penalva, on ne le présente plus non plus, puisque André a été entraîneur et éducateur au Girondins de Bordeaux pendant toute sa carrière. Il a été ancien pro également, éducateur à Montpellier également. Donc c'est une personne influente aussi sur le sportif aquitain, notamment sur nos jeunes. Et si tu veux, donc Bernard, il y a quelques temps de cela, avait, je pense, a eu la bonne idée, je pense, de fédérer un comité sportif pour l'épauler et l'aider à redynamiser un petit peu ce secteur-là. Bon, ça, il en parlera mieux que moi. Et il a fait appel à des passionnés, à des gens, encore une fois, le comité au grand cœur. Et on essaie de mettre en place de belles choses.
Donc c'est Bernard. Moi je pensais
c'est Bernard.
Moi je pensais que c'était Roger Federer.
Non, c'est pas, ça c'est Federer.
Bravo.
Mais ouais. Non, c'est Bernard qui nous a appelé pour essayer de l'aider.
Ouais. Donc mon Bernard, ça c'est quoi? C'est une histoire un petit peu de les gars. Il va falloir qu'on s'articule, qu'on soit plus efficace, que chacun puisse avoir un œil à un endroit précis. Ou c'est justement moi je délègue davantage. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Je peux pas tout faire bien. Donc je pense que c'est plus intelligent de se structurer comme des grands clubs.
Non, déjà nous on s'est basé sur pas forcément sur un modèle. Nous on s'est basé sur des valeurs. Moi, j'avais la chance, effectivement, d'avoir proche de moi, au quotidien, des garçons comme John, Yaro, André Penalva, Arnaud Lebrun, moins c'est Didouin parce qu'il est plus du côté d'Arcachon. Et c'était vraiment une opportunité de proposer quelque chose de fédérateur, qui avait du volume, qui avait de la prestance, et pour donner une nouvelle dynamique, mais une dynamique avec des vraies valeurs.
Okay.
Avec des vraies valeurs où les gens vont donner. Nous, on est reparti sur un modèle club à 100%.
D'ailleurs, identitaire.
Le choix de l'entraîneur n'est pas anodin. Les personnes qu'on a fait revenir, ce n'est pas anodin non plus.
Okay.
Donc nous, on veut repartir sur des bases vraiment, pas dire forcément locales, mais partir sur des vraies valeurs, retrouver... Okay. Une âme, retrouver une identité, redire qu'aujourd'hui le club de l'Esch Cap Ferret, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose d'autre, parce que le club de Cap Ferret, ils ont des bonnes idées, ils ont des belles personnes et ils ont des vraies valeurs.
Ok, alors c'est cruel le football parfois, parce qu'il y a des cycles, on ne peut pas rester éternellement, enfin, à part des Ferguson ou des exemples extrêmement rares d'entraîneurs ou de directeurs sportifs qui sont restés dans des clubs éternellement, il y a des moments où il y a des cycles, notamment au niveau des coachs. Donc parlons de ça aussi, on avait un entraîneur donc, pendant quelques années qui s'en est bien sorti finalement, puisque le club s'est maintenu, bon, pas forcément toujours facilement, parce que c'est vrai que les saisons sont compliquées, ça fait déjà quelques années que le club de l'Esch Cap Ferret lutte pour ne pas descendre et y arrive brillamment. Et donc, à un moment donné, on dit, ça y est, fin d'un cycle, merci beaucoup, au revoir, on prend un autre coach. Et donc, forcément, ça crée des petits frottements, des petites tensions. C'est normal, les gens se sont un peu investis d'un côté. De l'autre, on comprend, nous, qu'on est en fin de cycle. C'est fatal au football que, justement, de temps en temps, il faille un petit peu se frotter. Jonathan ou Bernard, d'ailleurs.
Alors là, déjà, le sujet, on va l'éviter parce que nous, c'était une fin de cycle, c'est évident.
Ouais.
Et après, encore une fois, quand je parle de projet commun, il faut quand même qu'il y ait une bonne osmose entre les divers intervenants. Là, aujourd'hui, on est arrivé en fin de cycle parce que, si tu veux, le club était scindé en petits groupes avec un coach qui gérait les gens qu'il avait sous sa responsabilité, mais qui était peut-être pas forcément en marge du club, était assez éloigné de ce que nous, on espérait au
niveau
du club.
Donc, pour faire simple, il fallait recréer une unité sportive et administrative.
Exact. Et pas forcément au niveau, de la première. Ça concernait les équipes 19, ça concernait la réserve, ça concernait l'école de foot. Donc, c'est pas un procès d'intention, prise à l'encontre d'un entraîneur.
C'est un projet global.
L'image fin de cycle, si tu veux, c'est avéré, mais c'est la mise en place d'un projet global et différent de ce qui était en place.
Très bien. Bon, alors voilà pour le football local. On va conclure cette partie avant de vous repasser un peu de publicité et de musique. Je voudrais juste poser une dernière question, mon brutal. C'est aux deux que je l'adresse. Cette restructuration, est-ce qu'elle a pour ambition de maintenir confortablement le club en National 3 ou est-ce qu'on est un village, une ville capable d'aller plus haut?
Je laisse John répondre parce que... Là, on ne sera pas d'accord.
Mais tant mieux.
Si, bien sûr, on est souvent d'accord, très rarement en désaccord. En tout cas, on se dit les choses. Non, elle a plusieurs objectifs, notamment le premier. Et pour nous, c'est vraiment très important, c'est restructurer notre école de foot. ramener tous les jeunes à un plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau ligue, parce qu'aujourd'hui on a un constat malheureusement où il y a eu beaucoup d'échecs à ce niveau-là. Donc nous on est là pour mettre du lien entre tous, pour mettre de l'identité, pour mettre des projets de jeu en place, pour veiller à ce que les règles soient bien respectées. Et donc ça c'est notre rôle et c'est les fondations quelque part d'un club, donc tout ce qui est école de foot et nos jeunes. Donc pour nous ça c'est notre premier travail, hein, on met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Okay. Par rapport à ça, la restructuration, l'organigramme également, et voilà.
Tout ce qui correspond à l'organigramme.
Exactement, donc ça c'est vraiment... J'ai pas compris la blague, pardon.
Sur ce point-là, on est d'accord.
Okay. On est d'accord.
Pour l'instant,
il n'y a pas d'ambiguïté aucune.
Non,
pour l'instant,
non, on non. Est bien. C'était ouais. Très important, en fait. Donc nous, on cible vraiment d'essayer de ramener tout le monde au plus haut à ce niveau-là. Parce que ça va forcément amener à former des jeunes, parce que notre objectif à l'Eschcap Ferré, c'est d'emmener des jeunes, un maximum de jeunes, à toucher à la Nationale 3. D'accord ?
D'accord.
Donc ça, premièrement, c'est très important.
Alors maintenant, s'il vous plaît, l'auditeur n'attend que ça. Sur quoi n'êtes-vous pas d'accord ? C'est ça qui est
oula.
Important.
Oula.
Non, vas-y, continue.
Non, pas grand-chose. Et sur la R3, les 19, donc on a vraiment un travail de fond. On a aussi l'envie et le souhait d'amener à notre équipe réserve, donc la R3, une plus-value. Donc c'est pour ça qu'on a fait également à ce niveau-là une nouvelle recrue, un nouvel recrutement au niveau du staff et du coach. Et donc l'équipe R3 aura pour objectif, je l'espère, en tout cas ça c'est nos souhaits, de monter en Régional 2.
On est toujours dans le projet.
On est bon, ok.
Aujourd'hui, effectivement, sur la Nationale 3, alors nous on est des compétiteurs, Bernard aussi, oui. Je pense que on reste ambitieux mais humble. Mm-hmm. D'ailleurs, je fais un petit remerciement quand même à Bernard, parce que tout à l'heure on a parlé de l'aspect financier.
Oui.
Et c'est vrai que pour constituer une équipe compétitive aujourd'hui en Nationale 2, parce que maintenant c'est Nationale 2, il faut quand même un sacré budget, il faut avoir des maîtrises des finances, etc. Et Bernard et son entourage maîtrisent parfaitement cela.
Pas tant que ça, hein, je lui dois d'études depuis 15 ans.
Ah, ça c'est encore une autre histoire, ça ne nous regarde pas. Et si tu veux, je voulais juste remercier Bernard, parce que je sais qu'il a fait un effort cette oui. année pour... Pour donner un petit peu le feu vert sur un recrutement un peu plus étoffé. D'accord. Un peu plus
oui, je vois défiler tous les jours dans les réseaux sociaux, je vois défiler du monde, hein.
Exactement. Mais encore une fois, ce n'est pas une garantie forcément de résultats ou
j'entends.
Voilà, on est d'accord,
c'est pas une science exacte.
C'est pas une science exacte.
La France était favorite de tout le monde, hein.
Tout à fait. Après c'est le terrain qui parle, c'est la cohésion de groupe, c'est ce que le coach va proposer, va amener. On a également fait signer donc un nouveau staff, nouveau coach, hein, qui amène de la fraîcheur, qui va avoir Lucas Serra, de la modernité dans son management, et on espère que ce petit mélange savant nous amènera à aller titiller un peu plus que les dernières places comme ces dernières années, où pour nous, on en avait marre, en fait, sincèrement, de lutter, exactement. Ouais. Ça fait des années maintenant qu'on joue le maintien, on fait ce que l'on
on
peut,
arrive,
on y arrive, et c'est très bien.
Quelle résilience.
Exactement, c'est très bien, mais aujourd'hui, on en avait un petit peu marre, et les joueurs, et le club, et vous, supporters, parce que je te vois tout le temps au stade, donc on peut en parler.
Moi, j'ai plus le choix, maintenant. Numéro 2,
voilà.
Numéro 3.
Donc voilà. Donc oui, on est ambitieux, mais on est humble.
Sur ce que tu viens de dire, je ne vois pas en quoi Bernard pourrait ne pas être d'accord.
Non, alors,
on n'a toujours pas abordé.
Je pense qu'on vient de tomber d'accord. On vient de tomber d'accord.
En direct.
Parce qu'à un moment donné, j'avais un staff qui est vrai, qui est peut-être plus compétiteur que moi, plus ambitieux que moi,
qui disait,
ça serait pas mal, on pourrait jouer la montée. Ouais. Et moi, j'essayais
de les troubles,
positionnons-nous bien dans le classement, évitons d'avoir les souffrances des dernières saisons, parce que 5 ans à jouer le maintien tous les ans, c'est quand même très dur, c'est usant physiquement, mentalement, moralement, c'est très éprouvant.
Bien sûr.
Et pour les joueurs, pour le staff et pour les dirigeants. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on vient de tomber d'accord, c'est vrai qu'effectivement, nous, notre grosse ambition, c'est de dire effectivement, si on peut jouer le top 5, Pour nous, ce serait déjà un premier pas, incroyable. Un gros premier pas, ce serait fantastique. Bon. On s'est donné les moyens de le faire. On a trouvé et récupéré, Dieu, on a bien bossé là-dessus avec, sa,
avec
son
le comité.
Équipe pour Merci pouvoir trouver les bons joueurs avec les profils, ouais. Parce que c'est toujours difficile aussi. Recruter des joueurs de football, c'est bien. Mais par contre, avoir un état d'esprit. Et là où ils ont bien bossé, c'est qu'on a trouvé des garçons qui ont les compétences footballistiques,
oui.
Mais qui ont un état d'esprit qui colle à la peau, qui colle au club. Et là, je pense que là, c'est quand même un gage d'avoir un groupe sain, homogène, avec des belles choses qui vont se passer.
Bon, voilà. Très bien.
Maintenant, je fais un appel, puisque c'est vrai que l'ambition du club, ça ne sera pas de rester en R3, en National 2. Si le club veut aller voir plus haut, il faudra que s'il y a des gens sur le Cap Ferret, des gens qui écoutent cette émission, qui entendent parler du club un jour, mais peut-être que s'il y a un comité de personnes bienveillantes qui avaient la possibilité de venir faire des mécénats et nous aider à trouver le budget manquant pour pouvoir se permettre de viser plus haut, on le ferait. Mais là,
c'est la vie, c'est bizarre. Un matin, tu vas acheter ton journal et paf, tu tombes sur Xavier Niel.
Oui, bon, malheureusement, c'est le
journal. Et puis là, justement, il s'ennuyait.
Le journal,
monsieur, vous ne connaîtriez pas une équipe de foot.
Le journal, il se le fait livrer ou il se l'imprime.
Monsieur, vous ne connaîtriez pas une équipe de foot. Je m'ennuie un peu sur la presse.
Et ceci étant, tu t'en rigoles, mais avec grand plaisir. Alors là, ça serait exceptionnel pour nous, pour le club, et ça, c'est évident.
Après, c'est sûr que des personnes. Après, faut-il qu'ils aiment le foot, faut-il qu'ils soient intéressés par la vie.
C'est même pas ça, il faut qu'ils aient envie de s'intégrer. Parce que si tu veux être bienvenu sur la presqu'île et faire partie de la famille, ben il faut montrer patte blanche. Donc il y a des moyens comme d'autres de montrer patte blanche pour certaines personnes. Aider le club pourrait être un excellent moyen. Voilà.
En tout cas, on l'accueillera avec un bras ouvert,
exactement.
Avec plaisir.
Vraiment. Alors voilà pour cette partie Lège Cap Ferret. Si vous avez un truc à rajouter, qu'on ait oublié, c'est le moment, parce qu'on va faire une petite pause maintenant. Jonathan, Bernard.
On aurait tellement de choses à dire, mais bon.
On va se dire merde et on va se souhaiter
de
bonne
faire les émissions tout l'été.
Avec plaisir, on peut en parler
mais
des
Mais j'ai
heures.
D'autres sujets. Après tout ça, on va...
Non, mais si tu veux football, le club, on peut
on en parler,
parler
des
tout
heures.
L'été.
Mais il n'y a aucun problème.
On a commencé timidement, mais...
Parce qu'alors, nous, ça...
On n'a aucun problème, mais il nous reste à parler conciergerie.
J'avais
Box.
Promis à Garnotte
Box
de
aussi.
Passer à l'hôtel des Pins ce matin.
Exactement. Ouais. Bah, tu
me
passeras
dans le camion devant la.
On y sera vendredi. Tu peux passer quand tu veux, Bernard. C'est à 2,50 m de ton bureau.
John, nous sommes conviés.
Eh ben, je viendrai avec grand plaisir.
Vous êtes à Open Table, les amis. Bref, donc tout ça pour dire que vive Lège Cap Ferret. C'est un club qui, je le répète, est incroyable parce que être arrivé à ce niveau-là avec ces moyens-là, bah, c'était effectivement, je crois que vous l'avez tous les deux compris. Enfin, pardon. Tous les auditeurs ont compris que, entre autres, grâce à vous deux, c'était une affaire d'hommes et de femmes, et de femmes et d'hommes. Et de ce fait, ben voilà, c'est une grande famille qui réussit bien.
Exactement.
Mais après, Hervé, ce qu'il faut noter, c'est que les fondations de tout ça, ce n'est pas ce qu'on va apporter, nous, cette année. C'est que là, il ne faut pas oublier que ce club, il existe sur des assises phénoménales, sur des anciens, sur des générations de dirigeants qui sont... mais qui travaillent déjà sur les fêtes de l'herbe fait
août,
qui sont déjà en train...
On reparle des fêtes de l'herbe.
Donc on va parler du boulot que John et son équipe peuvent faire. Vont parler du boulot que le président peut faire par rapport à ces relations. Mais n'oublions pas quand même la face cachée de l'iceberg. Et là, les fondations de tout
Alors,
ça...
Non, c'est la partie immergée de l'iceberg et la face cachée de la lune.
Oui, si tu veux.
Non, les amis.
Voilà. C'est important que tu dises ça Bernard. C'est très important.
Sans ces gens-là, le club n'existerait pas.
Exactement.
Et nous, on pourrait faire tout ce qu'on veut. Si on n'a personne pour recevoir les arbitres le dimanche, si on n'a pas de délégués, si on n'a pas de gens pour faire le quotidien du club, la vie d'un club, parce qu'un club, 560 licenciés, c'est une petite entreprise. Et je peux te dire que ça fait un travail au quotidien pour 4 ou 5 personnes à plein temps.
On est bien d'accord. Voilà, merci messieurs pour cette partie-là. On va se retrouver très bientôt, je le répète, on va parler construction, on va parler conciergerie, on va parler de plein de choses, parce que vous êtes, je le répète, des figures déjà, et puis ensuite aussi des éléments centraux de ce village. Donc on vous garde très précieusement. Et puis bah, nous, on fait une petite pause.
Merci.
Publicité.
L'Hôtel des Pins fête ses 100 ans. Saviez-vous que l'endroit le plus charmant, le plus chargé d'histoire du Cap Ferret est également une table remarquable ? Venez dîner sous la verrière entourée de rosiers. Prenez un verre sous les fleurs roses de l'Albicia du jardin ombragé. Oubliez le temps et sentez-vous en paix. L'Hôtel des Pins près du marché, c'est là qu'on trouve encore le véritable esprit du Cap Ferret.
Un coup de pompe pour le bateau? Poste d'essence du port de la Vigne? Un coup de mou? Un coup de soif? Un coup de faim? Café, boisson, restauration rapide, smoothie au café de la Vigne avec vue sur le port? Un coup de blues en voyant tes amis sur l'eau? Ben, passe ton permis bateau chez Castor et Pollux, sur le port de la Vigne. Permis en poche, loue un bateau chez Ferré Marine et découvre tous leurs autres services. Où ça? Ben, sur le port de la Vigne, évidemment!
Hortense, cabane d'Hortense, un siècle de bonheur au Cap Ferret.
Lose yourself to dance. I know you. Bains de Soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
Eh oui, on est de retour dans la Very Good Mobile, ici sur le boulevard de la Playa, en côté de la Maison de la Presse, parce que tout à l'heure, nous irons voir Simone Gélin, qui est en train de signer Alma Mater, son dernier roman, et que je vous conseille. C'est une dystopie particulièrement bien foutue. Et pour en avoir, évidemment, dévoré les pages, je vous le conseillerai ardemment tout à l'heure.
Fais attention, tu digères pas bien le papier, on l'a déjà dit. Hein.
De qui parles-tu ?
Toi, tu as digéré les pages.
Ah oui, tu veux dire, par exemple. Oui, c'est vrai, après ça me fait des selles un peu moins moulées. Bon, alors nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver toujours et encore avec Bernard Martin. Je le répète, un homme qui pèse dans cette commune, aussi bien, on vient de le voir, par rapport au football local, mais aussi, bien sûr, parce qu'il est la troisième génération, je crois, ne pas dire de bêtises, de constructeurs extrêmement célèbres et historiques du bassin d'Arcachon et donc de la ville de l'Escaferret. Et puis nous avons Jonathan Pascoe également avec nous, qui est, alors là, pareil, directeur technique peut-être, ou pardon, sportif, je sais, d'un club de football, mais aussi et surtout un homme un petit peu rigolo, parce qu'en fait, il a monté une conciergerie, et d'ailleurs, Émilie Leroy, qui l'a monté avec lui, est également venue nous rejoindre. Et donc, nous allons entamer ce sujet justement des conciergeries, parce qu'il y a une quinzaine d'années, ma chère Loli, figure-toi que quand on parlait des conciergeries, on se disait, ouais, c'est une espèce de snobisme,
c'est
on
pour les Parisiens.
Ça,
nul,
ici,
pour les Trapéziens.
Et donc, on se moquait un peu des premiers qui en ont eu l'initiative. Je connais d'ailleurs personnellement une ou deux personnes qui en ont monté une à l'époque et qui sont plantées. Parce qu'en fait, ils ont eu raison peut-être trop tôt, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une bouteille à l'encre, un mystère, cette histoire des conciergeries. Donc, vous vous rappelez, sur l'antenne passe une publicité un peu rigolote. Et bien, cette publicité, elle concerne l'ami John. On l'écoute tout de suite. C'est bon.
Conciergerie Jobassin.
Vous ne faites rien. Et nous nous occupons de tout. La gestion des locations, entretien, réparation. Toute l'année, jardin, piscine ou surveillance. Tout l'été, bateau, traiteur, livraison.
Conciergerie Jobassin, dites-nous ce que vous voulez. Et on
s'écoute du reste. Eh oui, voilà. Donc, il y a quand même des
c'est
gens
magnifique.
Qui sont joufflus, hein, quand même, parce que quelque part, on s'adresse donc maintenant à une clientèle, je dirais, quand même un peu de belle qualité lorsqu'on a une conciergerie. Et pourtant, tu as tenté le coup. Tu t'appelles John, Joe. On est sur le bassin, donc Joe Bassin. Évidemment, les gens vont penser à Joe Dassin. Tu l'assumes aussi dans la publicité. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette parodie volontairement mal chantée, si j'ose dire. Enfin, quoique Freud, excuse-moi, je voulais dire que tu étais très bon en faisant exprès de mal chanter. Et donc, de ce fait, c'est gonflé et en même temps, ça retient l'attention. Donc, d'où est venue l'idée de Joe Bassin et de la plaisanterie et d'oser faire ça ?
Bah, visiblement, ça marque les esprits, donc ça fonctionne. C'était tout simplement un moyen mémotechnique pour qu'on retienne le nom de ma société. Il faut savoir que pour la petite histoire, ma maman est fan de Joe Bassin. C'est peut-être un peu bateau, mais c'est la vérité. Et
sur
quand
le bassin,
j'ai commencé.
C'est normal que ce soit bateau. Mais...
C'est cadeau.
C'est cadeau.
Voilà.
Offert.
Et si tu veux, quand j'ai demandé à toute la petite famille une idée de nom de société, directement, j'ai habité sur l'Escaferret, donc sur le bassin, et ma mère, directement, en rigolant comme ça, mais pourquoi tu t'appelles pas tout simplement comme Joe Bassin.
Ah donc c'est maman.
Ça vient de ma maman, tout simplement, pour être tout à fait honnête.
Directrice générale de Saatchi & Saatchi, la grande boîte de publicité parisienne.
Donc, et en tout cas, ça fonctionne très bien. Voilà. Très bien.
Ah ouais, moi ça m'a fait mon année. Hein. Là,
j'imagine.
Exactement.
J'imagine.
Ok, pour le nom, alors maintenant le binôme, présente-nous un petit peu Émilie. Tiens, alors. Elle a un micro d'ailleurs. Elle
mais
Émilie
fait la timide là. Émilie, mon associé, mon binôme, celle qui m'aide à supporter donc tout.
Elle sait que ta femme est championne du monde de boxe. Bon, rassure-moi.
Elle sait très bien et ce sont des amis donc il y a aucun souci.
Très bien, on dit
avec
ça en
plaisir.
Rien.
Ils s'apprécient, elle s'aime énormément. Donc effectivement, Émilie m'a rejoint il y a quelques années de ça Dans l'aventure, au départ, Émilie était une de mes collaboratrices, donc sous-traitant sur tout ce qui va être ménage, accueil client, tout le rôle qu'on peut attribuer à une collaboratrice dans le secteur du service et de la conciergerie. Oui. Et puis au fur et à mesure de son investissement et de son sérieux, je lui ai proposé simplement de venir rejoindre l'aventure, mais un peu plus, donc en s'associant avec moi. Génial. Et puis en essayant de faire grossir cette société. Parfait. Voilà, tout simplement.
Si tu as besoin de conseils pour faire grossir, tu me demandes, il n'y a absolument aucun problème.
On en parle après.
Donc, quoi qu'il en soit, je voudrais maintenant qu'on rentre un peu dans ce mystère. Je le disais dans la présentation, c'est devenu, je dirais, incontournable aujourd'hui, une conciergerie sur le bassin. Est-ce que ça veut dire que, quelque part, les conditions de visite ou de résidence des gens a changé ? Est-ce que c'est plus la même clientèle ? Est-ce que c'est plus la même sociologie ? Et que donc, c'est pour ça que la conciergerie a du succès.
Ça, c'est encore le téléphone de Bernard.
Non.
Je suis obligé de balancer.
C'est mal.
Alors, effectivement, si tu veux, on a constaté depuis des années maintenant qu'il y avait de plus en plus de besoins de résidences secondaires et des gens qui habitaient à l'étranger, voire hors presqu'île, et qui avaient des besoins particuliers. Donc là, nous, on est un petit peu l'extension de ces gens-là. Et donc, naturellement, si tu veux, on s'est posé la question pour monter une conciergerie. Ça allait de pair avec les besoins que l'on avait. Alors, la structure en elle-même a 3 ans. Okay. Et moi, je le faisais à titre personnel. D'ailleurs, l'histoire a commencé comme ça, tout simplement. C'est que j'avais des biens en gestion à titre personnel. Ça fait quand même... une dizaine, d'accord, voire 12 ans que je faisais ça avec mes propres biens. Et puis, naturellement, la question s'est venue de monter, d'accord, une société, tout simplement. Parce qu'autour de moi, ça a commencé avec un ami, un cousin, un proche qui était à l'étranger. Et puis finalement, de fil en aiguille, d'accord, on a grossi comme ça, tout simplement.
Alors Bernard, toi qui es un témoin de cette presqu'île depuis longue date, est-ce que justement concernant ce principe de la conciergerie, ça veut dire qu'il y a eu un changement ? Parce qu'il y a 15-20 ans, c'était un peu mal vu une conciergerie. Ça aurait été dire oui, on n'est pas Saint-Tropez, on n'est pas ceci, on n'est pas cela, nous on n'est pas comme ça, on est plus simple. C'était un peu le discours d'il y a 15-20 ans, t'es d'accord ?
Oui, non, mal vu, pas forcément. C'est-à-dire que le format n'était pas cohérent. Les gens, ils appelaient directement leur électricien, leur plombier. Voilà. Le truc qui passait, c'est beaucoup les agences qui assuraient la maintenance pour les maisons qui étaient louées.
Les agences de location, d'accord.
Et aujourd'hui, l'artisanat a évolué. Il n'y a plus beaucoup d'artisanat indépendant. Par exemple, pour trouver un plombier pour venir faire un dépannage, c'est très compliqué. Un électricien, c'est encore plus compliqué. Savoir que notamment sur la presqu'île, déjà par rapport au logement et le déplacement sur la commune, si tu n'as pas des gens qui sont en place tous les jours le matin de bonne heure, c'est très très compliqué.
Je viens de comprendre quelque chose. C'est pas une conciergerie en fait.
Ouais. Complètement.
Exactement. Je viens de comprendre quelque chose en effet. Parce que par exemple, toi, si on parle de ton grand-père ou de ton père, à l'époque, vous étiez des entreprises qui aviez 50, 60, 70 employés. Alors qu'aujourd'hui, tu es un cœur qui va faire travailler tout un tas de gens. Et en fait, toi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, tu es le point central qui va permettre à un tel d'avoir son plombiste, son électricien, son pisciniste.
Ça te permet de gérer du réseau.
Ouais, complètement.
Moi, les gens m'appelaient en me disant, tiens Bernard, tu ne connais pas un plombier, tu n'as pas un électricien, tu n'as pas quelqu'un qui pourrait, tu ne connais pas une femme de ménage. Donc ça s'est mis naturellement en place où les gens, à force de galérer tous les ans à trouver ne serait-ce qu'une femme de ménage ou une personne.
Donc ils ne t'appellent plus, ils appellent John.
Je suis la personne, en fait, nous les conciergeries, on met en lien, si tu veux, les gens. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a quand même un carnet d'adresses très important dans tout secteur d'activité et on répond le plus rapidement possible à une problématique, à une demande. Et c'est ça que les gens apprécient aussi. Il n'y a pas que le côté... gestion de location, saisonnière, etc. Il y a aussi toute la maintenance à l'année. Une conciergerie, c'est très très vaste comme métier.
Après, les concierges,
c'est méconnu.
Ça nous fait penser un petit peu.
Parce que moi, je ne connaissais pas.
Bah oui.
Enfin, honnêtement, pas du tout. Ouais. Pas plus que ça.
Bon. En tout cas, moi, ça me fait penser parfois au cinéma, tu vois. Alors donc, est-ce que justement, vous avez déjà aussi à faire face à des demandes extravagantes? Est-ce que vous vous contentez, pardon, du normal, c'est-à-dire je m'occupe de ta piscine, je te trouve une femme de ménage, je te trouve un électricien, ou est-ce qu'il y a déjà un type qui t'a demandé de te trouver 2 kilos de caviar beluga à 4h du matin, un 26 janvier?
Alors, nous, non, en toute franchise. Ça reste, on va dire, des demandes assez basiques, encore une fois. Est-ce que vous pouvez me louer un bateau, me mettre en lien avec potentiellement me booker des restaurants? Est-ce que vous pouvez me trouver, vous pouvez me booker de l'équitation? Donc ça nous arrive souvent, c'est-à-dire des balades à cheval. Est-ce que un vol également, booker un vol sur le bassin d'Arcachon? Donc ça va rester des locations de vélos, forcément, parce qu'on est en partenariat. Nous, on a mis en place en fait un partenariat avec les acteurs locaux, c'est-à-dire loueurs de vélos, loueurs de bateaux, tout ce qui va être restauration aussi. On a des gens, quand vous venez de notre part, si vous voulez, référencés dans notre conciergerie, on a des partenariats, des tarifs préférentiels. Et ça, nous on sait faire, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie également de faire. Des demandes un peu farfelues ou particulières, non, on n'en a pas eu. Nous, on est là encore une fois pour répondre à des problématiques et des besoins. Les demandes qu'on a, c'est la plupart du temps, aujourd'hui j'ai un problème, j'ai des guêpes, un nid de guêpes, un nid de frelons, on va mettre en relation. Tout simplement.
C'est ça. Toute demande qui puisse venir à l'esprit concernant la bonne marche d'une maison et ou une problématique, on fait appel à toi. Alors on fait appel à toi au coup par coup parce qu'on a besoin d'une personne pour l'entretien, ou est-ce qu'on passe un contrat global avec toi et du coup dans ce contrat, il est inscrit qu'effectivement tu vas t'occuper de tout dans la mesure
Alors il y a deux formules. Il y a deux formules, tout simplement. On peut avec Émilie, tout simplement s'occuper des maisons temporairement, donc pour l'été, c'est avec grand plaisir. Et on a aussi notre formule avec un contrat de sérénité toute l'année où on gère tout de A à Z. Je pense cet hiver avec les tempêtes. Vous voyez, j'ai des clients qui sont basés sur Bali ou.
C'est ballot.
Ou en Thaïlande également, si tu veux. Et ben nous, notre rôle, c'est de sécuriser et de tranquilliser en fait les propriétaires. Et on fait des passages, des vidéos. On est en visio. Donc ça, c'est notre rôle. Donc on a effectivement des villas à l'année et des villas juste pour la saison, du saisonnier.
Et la preuve que la conciergerie se développe de plus en plus, c'est qu'il y a même des services très spécifiques de conciergerie automobile, par exemple.
Complètement.
Tu peux justement, quand tu as une voiture ici, le Cap Ferret c'est un petit peu compliqué pour la corrosion, et tu la laisses dans un hangar et tu payes ses services de conciergerie.
Toi, t'as une tête de mec qui a un pote qui fait ça.
Ouais, évidemment. Et toi, t'as une tête de mec qui a un pote qui fait ça aussi.
On est bien d'accord. Alors, quant à ce que disait Bernard tout à l'heure, non, désolé, le proxénète ne vient que demain. Oui, alors
En fait, ce qui est intéressant avec la société Jobassin Conciergerie, c'est qu'on c'est du clé en main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une société d'entreprise d'entretien de jardin, entretien de piscine. On propose un service clé en main. Il n'y a qu'un interlocuteur, ça va être moi, tout simplement. Et donc, ça aussi, c'est appréciable. Et les gens apprécient ce contact un peu exclusif. Et on gère leur bien, leur villa, comme si c'était la nôtre. Fort de mon expérience par le passé, puisque j'ai eu des maisons à titre personnel que j'ai louées sur des plateformes de location. Ça m'enrichit aussi, je connais les besoins en tant que propriétaire et effectivement les gens apprécient ce service.
Très bien. En tout cas, vous l'avez entendu, l'homme paraît sérieux, je peux vous dire qu'il est solide, carré, en place, on a envie de lui faire spontanément confiance, donc les ingrédients merveilleux pour un escroc. Donc c'est parfaitement amusant et bien sûr je plaisante. Je voudrais s'il vous plaît que l'on enchaîne un petit peu aussi avec l'ami Bernard Martin et tu peux témoigner comme tu le veux. Donc allez, un petit son de transition et je m'occupe du cas de Bernard.
Bain de soleil sur Very Good Cap Ferré, indice 50 de protection d'ennui.
Alors mon Bernard, tu sais, on dit tout le temps, c'est la grosse phrase à deux balles, quand le bâtiment va, tout va, donc tout va bien au Cap Ferré, parce que moi je vois des chantiers partout.
Oui, au Cap Ferré particulièrement. Après, il faut regarder que c'est pas partout la même chose, qu'on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui viennent de l'extérieur, il faut voir la route le matin.
C'est
donc
vrai.
Effectivement, notre petite niche, notre petit joyau aujourd'hui est très sollicité et très regardé. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Et ensuite, aujourd'hui, en termes en termes de construction, avec le nouveau problème du PPRL sur la pointe, le PPRI, la révision du PLU.
Donc les nombreuses réglementations qui limitent, structurent et modifient bien sûr les possibilités.
Aujourd'hui, tu es à 40-50%, voire 60% de permis de construire en moins sur une année.
D'accord. Alors justement, il est dit depuis quelques années maintenant que, surtout au niveau des agents immobiliers, que le marché immobilier donc, est un petit peu freiné, encalaminé, ensablé depuis quelques années. Alors peut-être pas sur tous les biens d'ailleurs, peut-être que ça touche certains biens et pas d'autres. Mais au-delà de ça, Bernard, forcément, si l'immobilier patine, bah, la construction aussi.
Ah ben, complètement, oui. Après, tu as toujours de quoi travailler, mais bon, par exemple, la commune, heureusement, est grande, et puis après, tu as des communes proches comme Reims, Andernos, Lacanau, qui nous permettent d'aller exécuter des chantiers en dehors de la commune de Lège.
Je comprends.
Chose qu'on ne faisait pas forcément il y a 3-4 ans.
Ok. Et alors justement, dans l'offre qu'un constructeur peut apporter à son client, est-ce que justement ça va jusqu'à faire appel à des gens comme John et pouvoir dire, voilà, je vais te faire une belle maison selon les plans sur lesquels on s'est mis d'accord, telle et telle prestation, et en même temps, je te propose, avec cette maison que je te construis, un service où justement tu t'occupes de rien, tout va bien?
Alors aujourd'hui, les gens sont très organisés. Mmh. C'est-à-dire que nous, quand on lance un projet avec...
Moi, j'adore.
Si avec nous, on lance un projet avec un client, souvent, ils viennent me voir en me disant, tiens, pour la piscine, on connaît un tel, ou on connaît telle conciergerie.
C'est ça.
Donc, souvent, les gens anticipent déjà le fonctionnement, savoir, ils savent... Parce que c'est aussi, quand tu construis une maison, tu ne sais pas quel est le devenir de cette maison. Tu ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, tu as trois types de clientèle. Tu as les gens qui font une construction familiale, c'est pour la famille, ce truc, donc il n'y a pas le même problème. Ensuite, tu as des gens qui font ça en se disant, mais nous, on va venir un mois par an et on va la louer le maximum.
Oui.
Donc, ce n'est pas les mêmes besoins. Et il y a des gens qui font ça que dans un caractère professionnel, qui construisent et qui louent plusieurs années avant de revendre.
Deux choses. Donc, la première, c'est faire feu de tout bois, tu sais bien. Donc, est-ce qu'encore aujourd'hui, en 2026, la construction au Cap Ferret et sur la commune, c'est toujours la maison en bois? Parce que là, non, à l'époque, c'était que ça.
Non, pas spécialement. Après, c'est une volonté. Après, les gens, on reviendra après à des constructions plus contemporaines avec de la maçonnerie, avec des choses plus pérennes. Parce que bon, le bois, même s'il y a beaucoup de maisons bois, on n'a pas vraiment de recul.
Ouais.
Moi, par exemple, par rapport à nos chantiers, je me rends compte qu'aujourd'hui, les terrasses bois, ça a une durée de vie en sapin de 15-18 ans. Tu aperçois que les bardages extérieurs, au bout d'un moment...
Surtout qu'on est dans des communes qui sont attaquées. Il y a du vent, il y a du sel, il y a du sable.
Il y a de plus en plus de parasites, termites et autres insectes, les fourmis, tout ça. Donc on ne connaît pas les conséquences que ça peut avoir sur le bois. Donc,
les insectes xylophages.
Aujourd'hui, la tendance est toujours au bois, à 80%. Ouais. C'est-à-dire que les gens n'imaginent pas faire construire une maison Cap Ferret sans que la maison soit en bois.
Chez Jo Bassin, de toute façon, on enlève les termites une par une. Hein.
Et à la pince à épiler. À la pince à épiler, tout à fait.
C'est ça. Ouais. Et la pince à épiler, bien sûr, en métal précieux. On ne va pas faire ça avec un vulgaire
métal. Tant qu'à faire.
On ne va pas faire ça avec des pinces en argent.
Deuxième question, Bernard. Tu l'as évoqué tout à l'heure toi-même dans ta réponse précédente. Eh bien, est-ce que justement, là aussi, l'acquéreur de domicile ou de maison sur la presqu'île de Lège-Cap-Ferret, il a changé? On a l'impression que peut-être des gens maintenant font des calculs financiers et non pas pour objectif lorsqu'ils construisent ou achètent d'y résider, mais au contraire de faire une opération immobilière. Donc, en d'autres termes, est-ce que la spéculation commence à un petit peu malheureusement prendre beaucoup de place ici?
Le coup de frein qu'il y a eu au niveau de la construction, ça vient de la spéculation antérieure. Aujourd'hui, toutes les maisons qu'il y a sur le marché à vendre, alors, le truc, on connaît quand même les dépositaires de permis, on connaît certains permis, on connaît le truc. On sait qu'aujourd'hui, sur les chantiers en cours, les maisons à vendre, il y a 40-50%, peut-être même plus, qui sont des maisons construites par des promoteurs, des investisseurs, ou truc dans le but de revendre.
C'est ça.
Donc c'est que de la spéculation. Aujourd'hui, le particulier qui veut faire construire, il a déjà des idées beaucoup plus, beaucoup plus approché de son projet. Il sait ce qu'il veut, il connaît son... il construit pas sa maison pour savoir potentiellement ce que tu peux vendre le mieux.
Tu estimerais à quelle proportion la spéculation et l'achat sincère
60-40.
En faveur de la spéculation. En faveur de la spéculation. Oui. Ah oui, donc c'est quand même... Ouh là, on l'a mis un petit peu au tapin, la presqu'île. Hein, elle est un peu fardée, la fifille. Bon, ok. Écoutez, quoi qu'il en soit, c'est important de le savoir, parce que je crois qu'on a tous en commun ici, justement, un amour fou de cette presqu'île de l'Échecaferret, et qu'après, bah, y a des choses qui sont légales, qu'elles se fassent, bien entendu, mais de l'autre, si on peut essayer d'insuffler un bon esprit, d'essayer de faire comprendre que ce soit à travers le football, que ce soit à travers un service rendu, que ce soit à travers la construction d'un bien destiné à, finalement, accompagner toute une vie, et peut-être, pourquoi pas, celle des enfants et des petits-enfants. Eh bien, là aussi, il y a une sorte d'état d'esprit général, et que si on ne le conserve pas, ce sera la fin du Cap Ferret et de la Presqu'île, parce que c'est ça en fait la réalité. Pourquoi les gens viennent ici, ne sillons pas la branche sur laquelle nous sommes assis. Il y a une sorte d'état d'esprit qui était merveilleux, un petit peu égalitariste, un petit peu, voilà, un petit peu bisounours. Gardons-le, soyons tous heureux d'être ici, et puis essayons de ne pas laisser trop les méchants rentrer, non Bernard?
Ah mais ça c'est compliqué, tu ne peux pas... Tu ne peux pas gérer une commune aujourd'hui comme c'était le cas il y a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans où tout était autorisé.
C'est
ça. Tu pouvais aller pêcher le rouget derrière les parcs à vitres le soir, tu pouvais aller poser des filets à l'océan à n'importe quel moment.
Coucher avec ta
femme. Tu pouvais aller chasser la tourterelle à la pointe.
Et envoyer un pauvre con dans le bois qui a failli se faire plomber 35 fois.
Voilà, t'avais pas réellement d'interdit. Tu avais des choses, tu étais un peu borderline, mais il n'y avait pas d'interdit, ça faisait partie du folklore local. C'était, et après, bon, certaines personnes se sont a priori appropriées certains passe-droits pour le truc. Il y a eu des abus, donc il a fallu commencer à réduire les autorisations. Puis on a fermé les plages, on a fermé l'accès aux plages, on a commencé à interdire la chasse, on a commencé. Et puis voilà, et puis après on est rentré dans un système de précaution, de prévention, d'interdit.
Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui que Bernard Martin va se fâcher avec moi, car je vais le dénoncer. Je vais vous expliquer ce que c'était que le Cap Ferret de jadis. Quand il parle tout à l'heure de liberté qu'on avait ou qu'on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait, je vous donne trois petits exemples, juste trois petits exemples. Bernard Martin, par exemple, avec quelques amis, emprunte l'estafette de la police pour voir jusqu'aussi loin qu'elle peut aller sur la marée basse. Tu vois. Donc évidemment, quand la mer remonte et que l'estafette est ensablée, c'est ennuyeux. Tu vois, mais on ne finit pas en prison à cette époque-là. Autre chose, on se cache dans les arbres. Il y avait des platanes au carrefour du Mascaret à l'époque. Donc c'est comme dans le gendarme à Saint-Tropez. On se cache dans les arbres, tu vois, et puis quand les bagnoles passent, on siffle. Donc les gens croient que ce sont les gendarmes qui ont sifflé. Donc, ça crée des brouhahas terribles. Et dernière petite anecdote qui a lieu avec la chasse.
Croustillant.
Rendez-vous le matin, pas loin de chez Barterotte, là-bas, parce que c'était un passage de Tourterelle. Et là, il y avait un monsieur, Dieu et son âme, on ne dira pas son nom, dont le prénom était Gérard. Et le mec se pointe avec un bonnet à la Cousteau, tu vois, tout rouge. Et puis, c'était pas vraiment un copain, le gars, tu vois. Et donc, les types disent rien, ils étaient télépathes, tu vois. Et puis, il y en a un d'entre eux, peut-être Nanard d'ailleurs, qui arrive, qui lui attrape le bonnet, qui le jette en l'air. Et là, poum. En fait, comme au Baltrave, les mecs ont flingué le bonnet pendant qu'il est en train de voler.
T'as fait ça, toi, Bernard.
C'était vraiment amusant.
Vous avez fait ça.
Alors, la staffette de la gendarmerie, c'était un test probant, puisqu'après, deux ans après. Ils étaient tous équipés d'estafettes 4x4.
D'accord. Donc ça vient de toi.
Ils se sont tellement embêtés à la désabler. Ils ont dit, on va prendre des véhicules 4x4, comme ça on pourra aller sur la plage.
Ils ont fait les cons, les gars, je peux vous le dire. Alors aujourd'hui, on voit des gens très installés, qui sont des respectables chefs d'entreprise ou présidents de club, mais croyez-moi qu'ils n'étaient pas les derniers à faire des conneries. Bon, alors, je pense qu'on a passé un moment extrêmement agréable ensemble. Je pense que je vais vous donner une carte blanche. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé, que tu auras envie de rajouter concernant les conciergeries ou ta fonction de directeur sportif? T'as vu, j'ai réussi à le dire.
Oui, alors, il y a deux choses qui se rejoignent. C'est tout à fait... Très très bonne question. C'est important de me poser cette question. Deux choses, c'est l'humain. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, ça prédomine tout. Mmh. C'est l'humain avant toute chose, que ce soit dans mes fonctions de directeur sportif du club, ainsi que ma société. L'humain est central par rapport à cela. Donc, oui. Je te remercie de m'avoir posé la question.
Pour moi,
c'est la base en fait, des choses, c'est les relations humaines. Et c'est pour ça que je fais ce métier, parce qu'on a beaucoup d'interlocuteurs en face de nous, que ce soit propriétaire ou locataire, et également au niveau du foot, on a énormément de gens en face de nous.
Et tu n'aurais pas un petit truc à me dire sur de la boxe, par exemple, un petit stage là, qui va avoir lieu?
Alors, C'est un camp de boxe thaïlandaise, effectivement, qu'on a mis en place au Cap Ferré donc ce week-end, avec sur 4 jours.
Avec ton épouse.
Avec mon épouse.
Qui redonne son pédigré.
Alors, mon épouse s'appelle Sandra Sevilla, qui a été une très, très grande championne de boxe thaïlandaise. Exactement. À l'international. Oui. Voilà.
Championne du monde.
Exactement. Entraîneur également, équipe de France. Ouais. Et aujourd'hui, elle a monté une association sportive. Ça fait donc maintenant 3 saisons, ouais, avec ses acolytes, donc ses amis, qui constituent le bureau directeur. Une association sportive. Et c'est la première, c'est historique à l'Eche Cap Ferré, de boxe thaïlandaise. Donc ça, c'est on ça. En est très fiers. Je suis très, très fier d'elle et je suis heureux pour elle et son équipe. Pardon. Ouais. Et cerise sur le gâteau, ce week-end, donc à partir de jeudi jusqu'à dimanche soir, ils ont mis en place un camp de boxe thaïlandaise avec un immense entraîneur qui a été son entraîneur également par le passé, avec lequel elle a eu 2 titres de championne du monde, qui s'appelle Rodrigo Alamos, qui nous fait l'honneur de venir au Cap Ferré, coaching particulier, coaching également collectif. Rodrigo, actuellement, pour vous situer un petit peu le personnage, il entraîne donc tout ce qui va être... Nassourdin Ivanov, à l'UFC.
Ivanov, Saint-Denis, des champions, quoi.
Énormément de grands champions. Rodrigo a formé énormément de champions et beaucoup de champions du monde, notamment avec Damien Alamos aussi, qui est un ami de Sandra, toute la famille. Donc on passe le bonjour à tout le monde et on en profite. Et je remercie Rodrigo de nous faire cet immense honneur et j'espère que vous allez venir nombreux. Et nombreuses.
On remet le flyer dans les stories ce soir,
ce week-end,
où il y a toute l'histoire. Donc vous verrez les lieux, les coordonnées auxquelles il faut se connecter. Et puis bien entendu, le casting de ce fameux stage. Mais vraiment, c'est quelque chose de très actuel, Loli, aujourd'hui. Beaucoup de gens se mettent à la boxe, y compris les femmes.
Moi, j'adore ça. Donc,
Tu es la bienvenue. Exactement. Tu peux venir.
J'en ai fait longtemps,
avec grand plaisir. À Lège, on a une association qui est là. Avec grand plaisir.
Trop bien.
Parfait. Carte blanche également finale pour Bernard Martin. Est-ce qu'on a oublié de te demander quelque chose
je pense que tout a été dit. Alors là où je rejoins John, parce que je pense que ce qui fait notre amitié et notre complicité, je pense qu'on partage les mêmes valeurs. Mmh. Et c'est vrai que depuis qu'on se connaît, on a traversé, on a fait bien du chemin ensemble.
C'est
mais
vrai.
Bon, chaque fois, ce qui nous a toujours permis de nous retrouver, c'est ce côté... On fonctionne à l'humain, à l'affect, et la sincérité. Et on est des fervents défenseurs des vraies valeurs.
Très bien.
Moi, ce que je voudrais apporter aujourd'hui, et puis peut-être le mot de la fin pour ma part, dire qu'aujourd'hui, ce qui serait merveilleux, c'est qu'on reparte justement dans l'éducation des enfants. Oui. Et nous, ce qu'on pourra apporter déjà au niveau des clubs de notre association, c'est déjà retrouver les vraies valeurs, le respect, la politesse.
Très bien. Voilà un bon mot final, je ne rajouterai rien. Mon brutal, voilà ce qui va se passer. Tu vas nous gaver de musique. Parce qu'en fait, moi, je vais sortir, je vais faire une photo de tous nos invités devant la Very Good Mobile. Et après, je vais aller avec les HF voir notre amie Simone.
J'ai bien
compris. Donc, balance-moi au moins 5 minutes, là, qu'on ait un petit peu de quoi avoir les coups d'étrange, s'il te plaît, mon
camarade.
Sortez
le palan, on va le sortir du camion.
Merci encore à Jonathan et à Bernard.
Merci à toi, Hervé.
Conciergerie Jobassin.
Vous ne faites rien. Et nous nous occupons de tout. La gestion des locations, entretien, réparation. Toute l'année, jardin, piscine ou surveillance. Tout l'été, bateau, traiteur, livraison.
Conciergerie Jobassin, dites-nous ce que vous voulez et on s'occupe du reste.
Conciergerie du bassin d'Arcachon, vous gérez beaucoup de propriétaires, beaucoup de locations et vous avez de nombreux paiements à répartir. Avec SysPay, simplifiez-vous la vie. Une fois le séjour réglé, chaque propriétaire reçoit sa part et votre commission est automatiquement versée. Plus besoin de multiplier les virements et les calculs. Caution préautorisée, encaissement sécurisé, suivi centralisé, tout est réuni sur une seule plateforme. Depuis 2011, SysPay accompagne les professionnels du tourisme dans la gestion de leurs paiements. SysPay, le paiement simplifié, la gestion maîtrisée. Informations et contacts sur sysspay.com.
Soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
Les coups de cœur de la presse du Ferret. Conseils de lecture, signatures, événements, tout l'été sur Very Good Cap Ferret.
Et voilà, nous sommes toujours sur Very Good Cap Ferret, ici sur le boulevard de la plage. Et pourquoi sommes-nous aujourd'hui avec la Very Good Mobile devant la maison de la presse ? Bien parce que notre amie Simone Gélin est en train de faire des signatures de son dernier ouvrage, Alma Mater, paru chez les éditions du Noir au Sud, c'est bien ça ? Alors ma chère Simone, déjà, ça fait plaisir, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu radiophoniquement parlant. Et puis bah, cette fois-ci, toi qui te promènes c'est généralement dans des histoires avec l'histoire, cette fois-ci tu fais la même chose, mais en plus tu te projettes également dans le futur avec Alma Mater. Alors raconte-nous un petit peu le résumé ou la dystopie dont tu es l'auteur.
Alors, ça n'est pas du tout de la science-fiction.
Non, j'entends bien.
C'est un roman très réaliste et j'ai commencé par bosser... Pour écrire ce roman, je voulais, voilà, c'était une nécessité d'écrire ce roman. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai compris une fois que j'ai fini. Mais bon, bref, j'ai commencé par lire un livre qui s'appelle Le Monde en 2040,
okay.
Qui est écrit par la CIA et les renseignements généraux américains, ah oui. Préfacé par des journalistes du Monde.
Tu restes un peu sur ta verne quand même, parce qu'on sait que Simone, quand elle écrit, elle aime bien avoir des consultants, anciens commissaires, anciens professionnels. Oui, et là, donc, tu as été encore plus loin, des espions.
Oui, voilà. Et ce livre, bah, bien sûr, ils ont fait des projections dans le futur, en 2040. Des projections à partir de documents scientifiques, philosophiques, sociologiques, etc. Et donc, je me suis inspirée de ces hypothèses pour en inventer une très crédible et très plausible. Voilà.
Donne-nous cette hypothèse, s'il te plaît.
Ah non, je ne peux pas.
Ah, tu veux dire que c'est le spoil ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser la trame, alors.
Le suspense du livre réside justement... dans le fait qu'au départ, on est projeté en 2044.
D'accord.
Et on ne comprend pas dans quel monde on vit. Et le suspense réside dans le fait qu'on va, simplement découvrir comment on en est arrivé là à travers un échange entre une mère et sa fille.
Alors, on va effectivement non pas balayer l'histoire, puisqu'on l'a compris, il faut que vous découvriez le livre. Mais alors, tu réinventes la société d'une certaine manière.
Oui, je réinvente le monde même.
Des nouvelles classes sociales, des nouvelles castes,
voilà,
des nouvelles...
Voilà, voilà. Et c'est une adolescente qui interroge sa mère. C'est aussi un livre sur la filiation et la relation entre une mère et sa fille. Je trouve qu'il y a un lien finalement entre la filiation et l'avenir et le futur. Voilà. C'est aussi un livre sur la jeunesse.
Est-ce que c'est aussi ou pas, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une trame policière ? Est-ce qu'il y a un suspense ? Est-ce qu'il y a une énigme ?
Oui, il y a en même temps une trame policière, bien sûr, qui coupe les grands chapitres. Voilà. C'est construit comme ça. C'est un aller-retour entre la mère et sa fille. Et de temps en temps, il y a une coupure entre ces grands chapitres avec une histoire purement policière.
D'accord. Alors ça, c'est important de le savoir. On garde quand même notre Simone Gélin qui sait nous tenir toujours en haleine à travers des mystères comme ça. Mais je le répète, ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fois, elle s'inspire de son imagination et elle invente justement des différents développements. Mais elle est quand même aussi toujours ancrée sur un travail personnel. Tu as fait la même chose cette fois-ci. Tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup archivé.
J'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup travaillé sur l'écriture aussi parce que... comment dire ? Je ne voulais pas embêter le lecteur avec des passages trop didactiques, etc. Donc ça, c'était assez difficile de doser, justement, de doser tout ce qui était documentation, etc. Et tout ce qui pouvait être beaucoup plus vivant, quoi. Donc le dosage était assez difficile à réussir.
J'entends bien. Après, c'est quand même un petit peu ton talent de savoir faire ça. Je préfère préciser pour les auditrices, auditeurs qui démarreraient avec nous que Simone est une personne qui est régulièrement citée ou concurrente dans différents prix littéraires, qu'elle en a récolté quelques-uns. Celui-là, je sais bien que c'est pas pour ça que t'écris, mais il est certainement, vu l'amour ou l'investissement que tu y as mis, un enfant dans lequel tu espères qu'il grandisse bien.
Oui, en fait, j'espère surtout que la jeunesse va s'en saisir. Parce que c'est un livre sur la jeunesse.
Ben oui. Et alors là, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu leur offres, tu leur donnes des hypothèses de futur, des clés.
Oui. Je suis allée aussi pour écrire ce livre. Je suis allée, j'ai rencontré des étudiants. J'ai parlé avec eux. Et oui, voilà, ce livre, il leur est aussi destiné. D'ailleurs, je ne peux pas spoiler l'épilogue, mais l'épilogue est vraiment un message à l'intention de la jeunesse.
Très bien. Alors, une question un peu facile de présentateur fainéant, et qui, je leur dis en toute humilité, je le fais tout le temps systématiquement, mais là, je n'ai pas eu le temps de lire le livre. Donc, puisque je n'ai pas eu le temps de lire le livre, il faut que je te fasse faire tout le boulot. Pourquoi faut-il lire Alma Mater ?
Pourquoi il faut le lire? Ben justement parce que, vous savez, quand on lit un polar bien glauque, bien sanglant, oui, avec beaucoup de violence, etc., on aime se faire froid dans le dos, etc.
Exact.
Mais quand on le referme, on retrouve le monde
rassurant. On rentre chez soi.
On rentre chez soi, quoi. Et ça fait du bien. Et là, c'est presque l'inverse. La première chronique qui est tombée sur Babelio m'a un peu étonnée. La personne dit...
Un site d'avis littéraire pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Babelio.
La première fois qu'un roman me fait autant flipper, mais vraiment flipper.
Ah oui.
Alors qu'il n'est pas très violent, ce roman.
Il laisse peut-être une impression de malaise.
Mais voilà, mais il reste dans la tête après. Et donc ça, c'est ce que j'ai essayé de faire. Quoi.
Très bien.
Voilà.
Alors donc, on l'a dit, c'est un éditeur avec qui tu as l'habitude de travailler. On le trouve où, ce livre?
Partout en librairie, sur le net.
Bon. Donc c'est une diffusion nationale. Hein. Vous nous écoutez sur le net, vous êtes à Paris, vous êtes à Lyon, bah vous le trouvez, Alma Mater.
Bien sûr,
absolument,
bien
partout.
Sûr. Bien sûr.
Parce que Simone est une auteure maintenant de dimension évidemment nationale. Est-ce que justement tu as déjà été traduite? Est-ce que tes livres existent en étranger?
Il y a juste le truc vert qui a été traduit en allemand.
En allemand?
Ouais.
Bah oui, en même temps, nos plages allemandes, pardon, pour le lapsus, c'est logique. Une dernière petite chose, ma chère Simone, je le répète, nous ferons une émission plus étayée, et puis surtout, je laverai cette honte de ne pas avoir lu le livre, je déteste ça. Mais en fait, je voudrais quand même si c'est un petit peu comme ça... prétentieux de ma part, mais te féliciter, parce que quelque part tu as une espèce de ténacité, de volonté permanente d'écrire. Je t'ai jamais vu sans une idée en tête, donc tu as forcément le prochain.
C'est même pire, parce
qu'il est presque fini.
Il y en a un autre qui va sortir au mois d'octobre qui est complètement différent. Là, c'est un livre qui se projette dans le futur, et ouais, c'est un livre qui se projette dans le passé, ouais, qui ressemble un peu à Juanita, dans le sens où c'est un roman inspiré d'une histoire
Juanita,
vraie.
Juanita, il a très très bien marché, vraiment.
Voilà. Et Gabriel, je te donne le titre, Gabriel, qui va sortir au mois d'octobre, mmh, mais qui sortira en prime au salon de Gujan.
Ok. Salon
c'est
du polar.
C'est un roman historique.
Qui a tous les ans là-bas à Gujan, qui est un rendez-vous important pour le polar.
Ouais, c'est un roman historique. Bon. Donc voilà. Donc là, deux romans dans l'année, c'est
pas mal.
Psychologiquement, c'est, ouais, je suis assez vidée.
Je veux bien te croire. Mais après, heureusement, on vit tous sur le bassin d'Arcachon. Tu vas pouvoir un peu te détendre, te faire
sûr,
du bien.
Bien sûr, hein, bien, bon, sûr. Bien. Et alors, j'en profite, vas-y, pour faire un peu de pub pour un festival où je vais le 24, 25, 26 juillet, mmh, dans l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée.
Ok.
Je suis invitée à un festival qui international, mmh, qui est organisé par une Australienne qui organise des festivals dans le monde entier,
okay,
Pékin, les États-Unis, etc., etc. Et voilà, je suis très fière. Elle m'a demandé de faire de la communication sur ce festival. Donc voilà, c'est fait, je vais lui,
bravo,
dire.
Alors, rappelle où c'est, parce que ce lieu Nanteuil, n'a pas l'air très...
Nanteuil-en-Vallée.
C'est dans quelle région?
C'est en Charente.
Charente.
C'est dans une abbaye magnifique.
Sans doute, parce, voilà, que c'est souvent le cas, c'est magnifiquement hébergé, ce genre de salon. Bon, en tout cas, vous l'avez vu, je n'étais pas vraiment à mon meilleur sur cette interview, mais l'idée, c'est quand même de venir. Elle est en train de signer, Simone, c'est maintenant, c'est sur le boulevard de la plage, et ça va durer jusqu'à 13h, je crois. Et ce ne sera pas la seule fois, tu vas revenir cet été.
Oui, je vais revenir au mois, bon, d'août.
C'est formidable. Voilà. Simone, on te dit un grand merde.
Merci
on te,
beaucoup.
Vraiment, on est ravis de te connaître parce que c'est toujours un bonheur de lire tes bouquins. Et dès que j'aurai un peu de temps, je te jure, je me plonge dedans et on en reparle bien plus sérieusement.
J'espère ne pas trop te démoraliser.
Tu ne me démoralises jamais. Au contraire, les gens qui nous offrent de quoi lire sont des gens qui embellissent nos vies. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Salut.
Merci
Simone.
Salut.
Maison de la Presse, boulevard de la Plage au Cap Ferret, le partenaire de l'été. Publicité. Le Café de la Plage à Andernos. Pour déjeuner, dîner ou simplement partager un verre. Découvrez la nouvelle ambiance cosy, une cuisine aux saveurs du monde, les DJ tapas de 18h à 20h et les grands événements sportifs sur des écrans géants. Venez entendre battre le cœur du bassin. Le Café de la Plage. Andernos a trouvé son nouveau rendez-vous.
Du déjeuner jusqu'au dîner, adoptez la terrasse de l'hôtel Côté Sable. Délicieux tapas, assiettes fraîcheurs, bar à cocktail, ambiance musicale et vue imprenable sur le bassin. Côté Sable, le 4 étoiles du Ferret, ouvert toute l'année pour vous.
La météo vous est présentée par Glisse en Herbe. Glisse en Herbe, village de l'herbe. Envoyez-vous en l'air en parachute ascensionnel et contemplez le plus beau paysage du monde à côté des oiseaux. Glisse en Herbe, village de l'herbe, tracez des courbes sur l'eau en foil à côté des poissons.
La Very Good Météo.
Alors, il faut bien évidemment préciser que cette rubrique a été rédigée avant de connaître le résultat de la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et l'Espagne. Le temps va donc beaucoup dépendre du résultat. Une victoire bleu-blanc-rouge et les températures augmenteront de plusieurs degrés, tant les corps excités enverront de la calorie dans l'atmosphère. Une victoire espagnole est là, un ciel chargé de larmes, de flaques de tristesse partout, et une banqueroute annoncée pour les marchands de paella et les joueurs de castagnette, évidemment. Une température pourtant annoncée à 27 degrés, un vent pouvant monter à 19 nœuds, et il y a sans doute eu des orages en fin de nuit. Ce n'est donc pas un abus de flageolet de la part de votre voisin de tente qu'il faut incriminer au réveil. Le vent est ouest, nord-ouest. Ah non, le vent est ouest-nord-ouest. Ah oui, donc c'est quand même très compliqué.
Non, je mets des capitales.
J'ai vu. Donc c'est pas top pour nos amis surfeurs. Roquefort, d'autant que la houle est annoncée à 70 cm et se retrouve du coup aplatie comme une crêpe. À ce sujet, j'embrasse Karina et Carlita de la cabane Pollo qui en font des géniales de crêpes et qui souffrent mille morts quand tonton les force à les rater pour lui. Bah oui, il a toujours préféré la première crêpe, celle qui est mal cuite,
un peu
déchiquetée, épaisse par endroits et surtout nature, sans sucre ajouté ou quoi que ce soit d'autre. Comment ? Tout le monde s'en fout ? Vraiment ? Bon, allez, ok, d'accord. Donc l'eau est entre 19 et 20 degrés et on commence à revoir les tétons sous les maillots de bain. Et les messieurs seraient bien avisés de prendre un Bermuda parce que le slip ne mettra pas en valeur leurs attributs quand ceux-ci se placent après le verbe avoir les boules, mais devant le complément d'objet direct. Les peaux claires mettent de la crème, les tannés prennent du monoeil, mais on évite la graisse à traire car le syndicat des vaches normandes a obtenu un décret de loi contre les amalgames entre produits naturels et industriels. La mer est basse à 12h47, le parti basse a du plomb dans l'aile, aussi bien Syrie qu'en Irak. Le coefficient est de 98, donc si vous voulez sortir du port, en début d'après-midi, vous êtes marron comme un cochon. Vraiment. Sinon, en ce 14 juillet, on fête les Donald. Et aux dernières nouvelles, il n'y en a plus en Iran, au Venezuela, au Mexique, en Ukraine, en Russie, en Chine. Plus personne ne veut s'appeler comme ça. C'est bizarre, non ?
Ouais.
Je vous raconte pas ce pauvre Donald Cardwell pour les costumes de théâtre. Il peut bien se brosser maintenant. Remarquez, il est mort en 2004, donc ça le dérange plus beaucoup.
Non.
Mais les boomers se rappellent tous du fameux « Les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell » qui finissait toutes les séances d'au théâtre ce soir. Et puis... comme disait Pagnol, si on ne peut plus tricher aux cartes, ce n'est plus la peine de jouer avec ses amis.
C'était la météo, offerte par Glissant Herbe, village de l'herbe, depuis les airs en parachute ascensionnel ou bien en foilant sur les flots pour un été plaisir au paradis. www.glissantherbe.fr.
Merci monsieur Brutal.
Lèche bien descendu.
Lèche Cap Ferré. Aujourd'hui nous pouvons prendre l'accent allemand bien plus facilement que hier, mon camarade. Bon alors, bref, donc ça c'est une petite blague par rapport à l'Hôtel des Pins et par rapport à Gernot, évidemment. Donc qu'on embrasse et qui s'est bien planté, parce qu'il nous a dit hier qu'en fait 2-1 pour la France. Donc Gernot, laisse faire les abatteurs. Alors quoi qu'il en soit, ma chère Loli, c'est enfin ton moment. On t'a rangé dans le placard depuis le début de cette émission. On est vraiment méchants nous ici. Et puis bah, tu vas nous parler d'un bon plan de sortie. Tu vas nous expliquer par exemple qu'il y a parmi tout ce que l'on peut faire sur le bassin d'Arcachon, la possibilité de faire un petit tour à la ville d'hiver.
D'accord, la ville d'hiver, oui, absolument.
Bain de soleil sur Very Good Cap Ferré, indice 50 de protection d'ennui.
Alors, si vous aimez les belles maisons, les rues paisibles et les histoires étonnantes,
non.
Il faut vraiment que vous preniez du temps. Comment ça, non ?
Non, je préfère les vilaines maisons, les rues bruyantes
et
les tentes.
Non, c'est mieux, les belles maisons. Alors, il faut découvrir la ville d'hiver d'Arcachon.
Ah, oui.
C'est à seulement quelques minutes du front de mer, vous changez complètement d'univers.
Si.
C'est assez surprenant parce que c'est une ville d'hiver qui est née au 19e siècle pour accueillir les personnes atteintes de tuberculose.
Et
à l'époque, les médecins recommandaient l'air des pins et un climat doux et l'ensoleillement hivernal.
D'accord.
Donc les frères Pereire, c'est des visionnaires qui imaginaient un quartier...
Ah bah oui, boulevard Pereire, bien sûr.
Exactement. Un quartier entièrement nouveau, construit sur les hauteurs d'Arcachon, à l'abri des vents marins.
Ouais.
Et très vite, l'aristocratie européenne, les artistes et les grandes fortunes tombent sous le charme du lieu. Alors, c'est un musée à ciel ouvert. Donc la ville d'hiver compte près de 200 villas, toutes différentes. Il y a des chalets suisses, des manoirs gothiques, villas mauresques, inspiration italienne ou anglaise. Enfin,
c'est
les architectes.
C'est très très beau. T'as eu l'occasion d'y aller, toi, Brutal ?
Oui, absolument, j'y suis passé. C'est un peu sur le principe des folies. C'est-à-dire que ce sont des industriels qui sont établis, on va dire, à Lyon, à Paris, etc., qui ont leur résidence principale. Et puis, bah, ça leur prend de se faire construire un truc, ambiance mauresque, je sais pas, Bauhaus ou n'importe quoi, je dis des bêtises.
Exact, non, mais oui.
Mais du coup, ça donne des choses architecturalement très 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 intéressantes.
Chaque maison a son histoire, quoi.
Exactement.
Alors, le quartier est très agréable. Vous pouvez le faire à pied. Les rues sont ombragées, les jardins luxuriants et l'ambiance particulièrement paisible. On est vraiment loin de l'agitation du front de mer.
D'accord.
Et puis après, vous avez le cœur du quartier. Si vous voulez faire un détour par le belvédère Sainte-Cécile.
Ah, il paraît que c'est un point de vue extraordinaire. Du
c'est
belvédère,
une jolie passerelle métallique.
On a une vue incroyable.
Donc, c'est une passerelle métallique à laquelle le jeune Gustave Eiffel a contribué. et ça offre une vue magnifique sur le bassin d'Arcachon. Exactement. Et la forêt.
On est bien d'accord.
Et un peu plus loin, donc vous avez la place Fleming et son kiosque à musique, ouais, qui rappelle l'élégance de la belle époque,
ouais,
lorsque les concerts animaient les dimanches d'hiver. Mmh. Et puis la ville d'hiver, c'est vraiment un musée figé, c'est un quartier vivant et où chaque villa possède sa personnalité.
C'est ça ce que disait l'ami Bretel tout à l'heure.
Exactement.
Effectivement, que chacun a été un petit peu au maximum de son imagination.
Donc le petit conseil de Very Good, c'est vous laissez la voiture sur le front de mer, vous montez à pied, et puis vous découvrez progressivement le quartier, exactement comme les premiers visiteurs au 19e siècle.
Bah, écoute, formidable Loli, merci beaucoup.
Mais merci à vous.
Après un gros bain de soleil sur Very Good Cap Ferret, on prend une bonne douche et on va faire ce qu'on veut.
Et oui, voilà, nous sommes toujours dans la Very Good Mobile, c'est le boulevard de la plage, nous sommes en face de la maison de la presse, vous le savez, nous y allons régulièrement parce que déjà, nous avons le grand bonheur de pouvoir faire quelques entretiens avec des écrivains, écrivaines qui signent. Et puis, c'est un endroit qui est relativement ombragé pour nous parce qu'on a trouvé la place qui va bien. Imaginez que par ces derniers temps, si nous nous retrouvions sans protection au-dessus de la tête, nous cuirions relativement rapidement.
Nous sommes en position centrale, nous sommes inévitables, c'est le camion rouge.
On ne peut pas nous manquer. Et surtout, vous venez nous voir parce que Loli vous attend, elle a son téléphone, dès qu'il y a une tête marrante qui se profile, abîme, vas-y, t'es dans la boîte et vous êtes peut-être dans la story, qui sait. Puisque je vous parle de story, je vous incite bien entendu à nous suivre sur Instagram. Vous avez Radio Very Good Cap Ferret, c'est comme ça que ça s'appelle sur Instagram. Et donc, vous pouvez suivre à travers des stories et des réels tout ce qui se passe au quotidien sur cette radio. Mais pas que, on vous distille aussi des bons paysages. Et on va créer des nouvelles rubriques, notamment une rubrique qui va s'appeler Beauté du Ferret. Oui. Et figure-toi qu'il y a une petite jeune fille qui travaille là à côté au magasin de crêpes, qui est un amour, une petite métisse avec des yeux verts. Elle est d'une beauté sublime. Je l'ai interpellée.
Tu vas pour les crêpes, toi ?
Je l'ai interpellé, absolument, parce que c'est un bébé. Hein. Et du coup, je l'ai interpellé hier, je lui ai dit, on va créer une rubrique, je vais vous envoyer une chroniqueuse pour vous faire une photo. Est-ce que vous êtes d'accord ? Elle m'a dit, avec plaisir, j'adore ça. Donc tu vas pouvoir aller photographier une petite jeune fille magnifique qui inaugurera notre série des beautés du Ferret. Voilà.
Cool.
Donc les beautés du Ferret peuvent être aussi des paysages, des villas. Enfin voilà, on va vous ouvrir une petite rubrique plaisir des yeux. Voilà les amis. Alors ça c'est sur Instagram, vous allez bien sûr sur Facebook également. Et puis pour nous écouter c'est verygood.fr et donc c'est le moment où l'autre enfoiré à barbe me traite de boomer. Mais sachez qu'il y a aussi des applis, que ces applis vous les mettez sur votre téléphone. Il y a les liens sur la page Insta d'ailleurs. Et vous mettez votre appli Apple ou Google sur votre téléphone. Et une fois que c'est le cas, vous écoutez à volonté ou partout dans le monde. Et puis également, et ça, les gens n'y pensent pas. Je n'y pense pas. Je ne suis pas de ces générations. Mais explique-nous, Brutal, ce qu'on peut faire avec l'autoradio.
Ah oui, avec l'autoradio, tu veux dire qu'on peut appairer son autoradio et son téléphone. Et par la magie de technologie, d'avoir la radio au travers des haut-parleurs de votre voiture.
Il se moque de moi. Il n'a même pas dit que donc par simple opération de Bluetooth, nous pouvions relier le téléphone.
C'est ce que je disais dans l'appairage. Laisse tomber, essaye pas.
Oui, mais tu crois que les auditeurs savent ce que ça veut dire ? On est là pour être vulgarisé, mon cher ami.
Bon, alors dans ces cas-là, amenez directement la voiture, je vous ferai l'appairage, je vous ferai les réglages, et puis comme ça, on n'en parle plus.
Le mec, il a Bac plus 12 et il imagine que l'auditeur aussi. Non, mais alors, appairage, ça veut dire quoi ?
Appairage, ça veut dire mettre de pair deux appareils. Tu les fais se présenter,
d'accord.
Tu leur mets de la musique.
Bonjour, je m'appelle téléphone. Bonjour, je m'appelle autoradio.
Exactement, c'est ça. C'est
donc,
ça.
Par le Bluetooth, je te fais parler l'un à l'autre.
Est-ce qu'on peut se parler ? Oui, on peut se parler. T'es gentil. Allez, ok, d'accord.
Okay. Voilà. Et donc, il y a un bouton mémoire ?
Non, c'est une fois que c'est appairé, c'est appairé.
Et toujours ?
Pour toujours. Une fois que sauf si tu l'enlèves volontairement. Mais quand tu reviens dans ta voiture, normalement, il retrouve l'appairage. C'est une opération que tu n'as à faire qu'une seule fois.
Quel boomer ce mec, t'as vu, il nous parle.
Ouais,
ok, boomer.
La revanche binable.
Moi, je suis Gen Z, moi. Je suis la génération Z. Non, je sais même plus ce que je suis, moi. X. 73, c'est X.
73, alors, je...
Toi, t'es même pas millénium, toi. T'es plus jeune
non,
que ça.
Plus,
T'es quoi, toi ? T'es Gen Z, ouais, c'est ça.
Ouais, Gen Z, moi.
T'es Gen Z.
Gen
toi.
Z. Ouais.
Et moi, c'est X, alors, je pense.
Ouais, je crois que c'est X.
Millennium,
ouais.
C'est 2000.
Ouais.
Et donc, moi, c'est quoi ? Ah. C'est génération momie.
A prime.
Millennium, c'est 90-2000.
Ah ouais, non, mais non.
Je crois.
Millennium, c'est 90-2000, on est d'accord. J'en sais rien du tout. Si vous savez comment catégoriser les gens nés dans les années 60, s'il vous plaît, ne me le dites surtout pas.
Parce qu'on aime être catégorisé, ça. C'est...
Ouais, c'est ça. Bon, vous savez quoi, on est presque arrivé au bout de l'ennui. Non, blague à part, on a encore deux, trois petites choses à vous proposer. Demain, si ça se passe bien, on va avoir un petit voyage à La Réunion. Donc, j'attends encore confirmation, mais nos invités devraient être tous des habitants de La Réunion qui viennent nous en parler un petit peu. On parlerait du tourisme, des requins, de beaucoup de choses. Et puis, bah, surtout, l'ami Brutal, toi, t'es un réunionnais. Quoi.
Bah, comme ça, Mr. Cause Créole avec Banna.
T'as vécu combien de temps là-bas ?
20 ans.
Ben voilà. Donc, tu seras l'interlocuteur idéal pour nous inviter si jamais on peut monter cette émission. Et vendredi, ça, je te dis pour info, Loli, nous serons avec. Tu ne seras pas là. Nous serons avec Georges-Marc Benamou. Voilà, donc, qui est un ancien conseiller, notamment de François Mitterrand. Tu vois, donc, c'était lui qui lui disait tu devrais faire ça plutôt que ça. Donc, c'est quand même un peu marrant. Il l'a été d'autres présidents aussi. Il est très protéiforme. Il a monté des magazines, des journaux.
Ça va être intéressant.
Très intéressant. Et il a également monté. Donc, eh bien, il est à l'origine de plusieurs séries télé. C'est lui qui a fait La Peste il n'y a pas longtemps sur le service public. Okay. Et là, il nous prépare un rouge et un noir dont je ne vous dis pas que ça va être intéressant. Bref, donc là pour aujourd'hui, on va encore juste vous parler un petit peu de faune, un petit peu de flore du bassin d'Arcachon. Tu récupères tes fiches parce que après, quand on vous a parlé d'un quartier un petit peu original et qu'on vous explique un petit peu le saviez-vous, eh ben, on a aussi envie de vous faire aller, de vous faire comprendre, découvrir notre pays. Et donc à travers ça, nous avons la possibilité de faire un petit tour de la faune et de la flore locale.
Dans le soleil sur Very Good Cap Ferré, indice 50 de protection d'ennui.
Alors c'est vrai que quand on pense au bassin d'Arcachon, on parle toujours des plages, des huîtres, des pinasses. Et pourtant, le bassin d'Arcachon, il y a un peu plus de trésors, donc par sa nature surtout. Ouais. Et c'est classé parmi les plus grands sites naturels d'Europe. Donc c'est le bassin est un refuge indispensable pour certaines espèces animales et végétales.
D'accord.
Donc le bassin, il abrite pas mal d'espèces. On a notamment le Cistude d'Europe. Donc c'est une petite tortue d'eau douce.
La Cistude.
Ouais, Cistude, voilà. C'est une petite tortue d'eau douce.
Mais moi,
qui
j'ai
est de plus
arrêté
en plus
mes Cistudes vers l'âge de 22 ans.
T'as essayé de les rattraper.
C'est ça, ouais.
On a le lézard vert occidental qui est assez grand avec une robe verte éclatante.
Il est barbu, non?
Oui, c'est ça. C'est...
Un peu comme toi, oui.
C'est celui qui est vert fluo, c'est ça?
Oui, oui, exactement.
En combat, en tenue de kaki, camouflage.
Ensuite, sur le bassin, on a également l'une des plus grandes voies migratoires avec plus de 300 espèces d'oiseaux.
Des drôles d'oiseaux.
Ouais. On a l'une des plus grandes réserves ornithologiques de France, d'Europe.
C'est vrai.
Des aoudés.
Ah oui, ça, le mot local.
On a donc les aigrettes garzettes les hérons cendrés, les majestueux
hérons petits patapons.
Blanches. Patapons ?
Non, mais hérons petits patapons. Elle est très connue, mais peut-être pas des Gen Z, justement.
Mais justement, peut-être pas des Gen Z.
Ça se tente.
Il
ne
faut pas oublier. Hein. Je suis plus jeune. Hein.
Ça se tente.
Alors ensuite, on a les avocettes élégantes avec leur bec recourbé. Les huîtres. Alors les huîtriers pis. Reconnaissable avec leur bec rouge-orangé.
Et alors, l'huîtrier pie fait 3,1416.
C'est ça, exactement. Ça, c'est une question de maths. C'est pas une question de Gen Z.
Il est très rond.
Non, c'est pas une question de Gen Z. Alors, sans oublier les célèbres bernaches cravantes, qui viennent passer l'hiver sur le bassin d'Arcachon.
D'accord.
Elles font plus de 4000 km depuis la Sibérie.
Waouh.
Et c'est vraiment une richesse énorme.
D'accord, donc on ne pas confondre avec les bernaches.
Il y a les dauphins aussi.
J'aimerais vraiment savoir ce qu'elles se racontent, parce que quand tu les vois passer au-dessus, ça braille, ça n'arrête pas.
Ah oui, ça fait du bruit.
Ça fait du bruit. Je ne sais pas du tout ce qu'elles se disent, à mon avis.
Ça plaille.
Elles sont serrées. Attention, arrête,
Attention, jet leader, attention pour break à gauche.
Charles-Louis, papa, tango, virage droite.
Et puis après, on a donc des dauphins qu'on voit souvent près des passes à l'entrée du bassin.
C'est vrai.
C'est très beau d'ailleurs.
C'est beau. Sarah Poniatowski, qu'on salue, a fait une très belle vidéo l'autre jour de dauphins, disait-elle, qu'elle voyait devant l'horizon. Mais vu les nageoires, je pense qu'elle a confondu avec des marsouins. Donc si jamais je la chope sur cette radio, je lui dirais que dauphin, non. Marsouin, oui.
Et puis après, on a donc sur les dunes des plantes comme l'oyate. Ouais. On a aussi le zoster.
Les austères, Alors ça, ce sont des algues marines qui malheureusement disparaissent parce qu'elles sont très utiles, notamment elles servent de naissance. C'est-à-dire, c'est là où toutes les espèces de poissons, d'hippocampes et autres habitants sous-marins
viennent
faire leur bébé. Tu vois
exactement. Et puis voilà, ben là on a fait le tour. Hein.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
On est pas mal. On gardera une autre partie pour la prochaine fois parce qu'effectivement, la densité de population faune-flore du bassin d'Arcachon est absolument remarquable. Bon, bah écoutez, on va remercier notre partenaire de l'Hôtel des Pins, de se donner rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Je vais remercier beaucoup Loli pour sa participation.
Non, pas d'espagnol. Oui. Non, on ne parle pas espagnol aujourd'hui. Non,
c'est vrai, c'est vrai. Il faut annuler les castagnettes et les paellas. Voilà,
faut
c'est
arrêter,
ça. Exactement. Brutal, merci.
Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir.
Vous en êtes un autre après vous, mais je vous en prie.
Je n'en ferai rien.
Après vous. Voilà. Merci, camarades. Bon, en tout cas, toutes et tous, là, profitez bien de la journée. Il fait encore beau. Bien qu'on fasse, nous, des météos farfelues et que vous ayez certainement d'autres sources d'informations, sachez que vous allez encore pouvoir profiter d'une très belle journée. Donc, cool. On a moins chaud, donc c'est quand même pas mal. Mais restez quand même prudents hein, quand vous vous baignez, quand vous allez vous exposer au soleil, quand vous faites du bateau, des sports nautiques. Faites toujours un petit peu attention, toujours un petit œil dans le rétro. Ça ne peut pas faire de mal parce que des vacances, c'est fait pour être heureux. Et ça ne doit pas finir mal, vous l'avez compris. On vous embrasse toutes et tous. On vous envoie sur verygood.fr pour écouter les playlists parce que celle-là c'est quand même les meilleures du monde. À demain, salut à toutes, salut à tous, bon courage Loli.
Bain de soleil, c'est fait pour aujourd'hui, mais l'Hôtel des Pins vous attend tous les soirs pour un dîner sous la verrière centenaire à l'ombre des rosiers du bel Albicia.